Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast de la rédaction. Aujourd'hui, émission 133, nous sommes le 10 mars 2010, il s'est donc passé quelque chose d'important hein, pour le jeu vidéo. Il y a moins de 24 heures, le 9 mars, sortait Final Fantasy XIII, le 13e volet de la série mythique du jeu de rôle à la japonaise, plus de 85 millions d'exemplaires vendus pour toute la saga, une saga qui a commencé en décembre 1987, il y a donc plus de 20 ans, et donc forcément, Gameblog se devait de faire un podcast saga, la saga Final Fantasy, et pour ça, autour de la table rouge laquée la plus incroyable d'Internet, eh bien, nous avons un invité, un expert de la saga des Final Fantasy, monsieur Chris Delpierre. Comment ça va, Chris ?
Très bien. Salutations, bonjour à tous.
Hello, ça va ?
Bien évidemment, tu n'es pas tout seul, nous avons aussi notre spécialiste des Final Fantasy chez nous qui a réalisé le test de FF13, Mimic, ça va Mimic ? Bah super.
Alors en fait ce qui serait vachement bien ce serait qu'il allume son micro aussi.
Ah effectivement si ton micro est là, voilà. Forcément bonjour. T'entends pas dire bonjour, voilà, ça marche
joli.
Forcément beaucoup mieux. Voilà, à côté de toi il y a Julo.
Bonjour.
Et puis Raon.
Et oui.
Tout le monde est prêt car mesdames et messieurs nous allons passer ensemble au bas mot une heure avec la saga Final Fantasy et vous allez découvrir une pléthore d'anecdotes. C'est assez hallucinant, il y a vraiment des petites pépites qu'on vous a retrouvées sur les coulisses hein, de la création de cette série. Et forcément, on ne pouvait pas commencer sans l'anecdote finalement la plus connue, mais que peut-être certains d'entre vous ignorent. C'est tout simplement la création de Final Fantasy. Pourquoi ce nom Final Fantasy ? Eh bien Chris, tu vas nous expliquer. À la base, il y a Hironobu Sakaguchi, le père des Final Fantasy. Pourquoi Final Fantasy ? Pourquoi ce nom ?
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1985, Square a eu la licence de Nintendo. Ils ont développé des jeux sur NES, donc. Donc des jeux aussi connus que Teguzar, King's Knight, Rad Racer ou 3D World Runner.
Mm-hmm. Qui a pas mal marché, 3D World Runner.
Ouais, ça a pas mal marché aux États-Unis effectivement.
Et Rad Racer aussi ?
Ouais, Rad Racer aussi. Mm-hmm. C'était les deux qui ont le mieux marché. Ce qui n'a pas empêché apparemment la société d'avoir des soucis financiers. Et donc, eh ben, effectivement, il a nommé dans son dernier projet, il pensait que ce serait le dernier Final Fantasy, un RPG qui copiait un petit peu le Dragon Quest sorti un an auparavant.
Un petit peu, voire beaucoup, hein, sur, voilà, en tout cas
bon,
sur le premier.
On s'inspire de ce qu'il y a. Hein.
Ce qui marche,
à l'époque, surtout. Ouais.
Parce qu'il avait cartonné le premier Dragon Quest. Hein.
À l'époque, il y avait Ultima, et puis voilà, le premier
il Dragon Quest. Il s'est inspiré de Zelda aussi, a-t-il dit, entre autres aussi.
Ouais, voilà, c'est fou, ouais, tout à fait. Donc voilà, il a réuni ce qu'il a pu, il a fait sa fantasy finale qui, comme on le sait, a été loin d'être la dernière.
Ah, très clairement. Et alors justement, au cœur de l'équipe, il y a des choses avant de parler, à proprement parler, du premier jeu, hein, du premier Final Fantasy qui est sorti sur NES au Japon le 18 décembre 1987. Il y a des noms, il y a des grands noms dans la saga des Final Fantasy, on reviendra dessus au cours du podcast. Bien évidemment, Hironobu Sakaguchi, qui depuis quelques années d'ailleurs n'est plus chez Square Enix maintenant, hein, Squaresoft à l'époque, mais chez Miss Walker.
Hein, une société qu'il a créée.
Et dont il est en train de préparer son prochain jeu, c'est The Last Story, sa dernière histoire. On verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, l'analogie avec Final Fantasy est assez amusante. On parlera bien évidemment de Monsieur Amano, qui était au design. On parlera de Monsieur Kitase, qui aujourd'hui est vraiment aux manettes des Final Fantasy. Mais à l'époque, sur les trois premiers Final Fantasy, il y a une personne que peu de personnes justement connaissent, c'est Nazir Ghebeli. De qui s'agit-il, Chris ?
En fait, c'était le programmeur des trois premiers Final. Il était irano-américain et en fait il programmait sur Apple II si je me souviens bien et Sakaguchi était tombé sur certaines de ses réalisations et il avait aimé. Il l'a embauché et voilà, donc ce qu'on ne sait pas c'est que voilà, c'est il n'y a pas forcément que des Japonais dans l'équipe première des Final Fantasy, il y a aussi lui.
Ouais. Et c'était un bon a priori parce qu'à l'époque en fait bon aujourd'hui ça fait plus beaucoup de différence mais techniquement et le premier Final Fantasy était un petit peu en avant sur ses concurrents au niveau des effets spéciaux, des animations, etc. Même si animation c'est un bien grand mot pour des sprites qui bougent un petit peu à l'écran, mais c'était en tous les cas supérieur à ce qui se faisait à côté, donc il n'est pas mauvais le garçon.
Puisqu'on est un petit peu dans la genèse et dans les chiffres aussi de ce Final Fantasy, c'est quand même déroutant de se rendre compte que plus de 20 ans après le premier Final Fantasy, c'est des jeux qui mettent plusieurs années à être produits, c'est des centaines et des centaines de personnes qui travaillent sur un tel projet. Et à l'époque, pour Final Fantasy 1, eh bien en fait, l'équipe est excessivement resserrée. Hein. Il y a 5 noms essentiellement, 5 personnes. Hironobu Sakaguchi à la direction générale du jeu, Nobuo Uematsu pour la musique, qui va rester quasiment sur toute la série, Nazir Ghebeli, dont on vient de parler, à la programmation, Kenji Terada au scénario, et Yoshitaka Amano au design. C'est vraiment cette équipe-là, en tout cas c'est le cœur de l'équipe, qui a permis la création du premier Final Fantasy.
Ouais, tout à fait. Et puis c'est des gens qu'on retrouve sur un certain nombre d'épisodes après. Mmh. Et voilà, c'est vraiment une équipe, un noyau.
Mmh. Alors ce Final Fantasy premier du nom, il a posé aussi certaines bases, des thèmes qu'on va retrouver ensuite déclinés dans tous les Final Fantasy. On parle de certains, Chris ?
Bah, en fait, les thèmes, bon, c'est sûr que vu maintenant avec notre regard, c'est ça paraît un peu désuet. Mais à l'époque, c'est vrai qu'ils avaient, on va dire que c'était assez profond. Voilà, ça, il n'y avait pas grand-chose d'équivalent. C'est toujours les histoires de cristaux, de bien et de mal, avec des boss à affronter, etc. Et souvent, c'est un truc qu'on va retrouver souvent dans la série, un retournement de situation où on se rend compte que le vrai méchant n'est pas forcément celui qu'on croit, etc., ouais. etc.
Et puis il y a aussi le fameux prélude hein, qui est donc, là, la musique de Nobuo Uematsu.
Ah, en fait, il y a le prélude et il y avait d'autres thèmes, je crois qu'il y en avait.
Il y a la Victory Fanfare, voilà. Celle de quand tu gagnes un combat.
Et franchement,
qui n'existe plus désormais.
On peut réécouter les productions NES, enfin les musiques d'Uematsu sur NES. Honnêtement, ça s'écoute tout à fait.
C'est, ah, voilà,
franchement, c'est assez incroyable.
Ouais, on est assez d'accord. Est-ce qu'il y a des petites choses à préciser sur l'histoire de Final Fantasy où on passe au deuxième opus?
Non, on peut pour continuer rapidement sur le premier, ouais, pour finir, ouais, pour montrer qu'il avait posé des bases. Dans le jeu, on trouvait un bateau et un vaisseau volant, mm-hmm, et peut-être même un canoë, je crois.
Oui, il y a un canoë, effectivement. Voilà. Okay. Voilà. Le canoë pouvait remonter les rivières et il fallait le bateau pour aller dans l'océan.
Voilà, bah écoute, donc ça veut quand même dire qu'il y avait le fameux airship qu'on retrouve dans plein d'épisodes. Mm-hmm. Le fait aussi de voir ces personnages de profil,
alors
de
ça, ouais, c'était une grosse innovation, voilà, à l'époque.
4 personnages, et puis dans la case à côté, jusqu'à 9,5 différents. Mm-hmm. Donc on voyait nos personnages, on les voyait effectivement avoir des animations, comme disait Raon, certes sommaires, mais qui existaient.
Mais c'était une première, parce que dans les autres jeux, genre tu prends un Ultima qui est un contemporain, tu étais en vue subjective, et dans les Dragon Quest, on voyait pas ces personnages. Donc cette fois-ci, tu voyais précisément quel personnage attaquait quel monstre, mm-hmm, et mine de rien, c'était une information supplémentaire capitale dans ce genre de jeu. Donc c'était très
Dragon Quest avait gardé ensuite cette oui, représentation jusqu'à je sais plus quel épisode, jusqu'au 7 quoi, je crois.
Tu voyais pas tes
joueurs, tes personnages, tu voyais que les ennemis à l'écran qui se faisaient slasher comme ça.
Et du coup, il y avait un autre truc aussi dans Final Fantasy 1 dans la version originale, parce que quand ils l'ont réédité, ils ont corrigé ce problème entre guillemets, parce que c'est pas forcément un problème, mais à l'époque donc quand tu ça marchait évidemment comme aujourd'hui, c'est-à-dire que tu sélectionnes grosso modo les actions de tes personnages qui les enchaînent. Si tu as deux personnages par exemple qui vont taper sur le même monstre et que le premier tue le monstre avant que le deuxième ait tapé, le deuxième tapait dans le vide, donc tu perdais ton action. Et à l'époque il y avait pas de MP dans le premier Final Fantasy.
De magie.
C'était des charges en fait, les mages avaient un certain nombre de charges que tu pouvais recharger que en allant dormir dans une auberge ou en allant dans une église, je crois. Mmh. Et du coup si tu balançais un sort sur une case vide, c'était une charge de perdu, c'était quand même pénible à l'époque.
Alors en parlant d'église, en fait la censure avait touché dès le premier épisode, et c'est un truc assez flagrant, c'est-à-dire que les églises japonaises étaient devenues des cliniques dans la version américaine.
D'accord.
Et tu vois quand tu vois le jeu, en fait ils ont viré la petite croix dessus quoi.
Ils ont remplacé par un cœur, je crois.
Non, il n'y a rien.
Il n'y a rien.
Enfin, il y a peut-être un cœur sur le fronton, mais en tout cas, la croix qui surplombait disparaît tout simplement.
Intéressant. Et puis, c'est en tout cas, effectivement, tout à l'heure, on en parlait, hein, mais vraiment, les thèmes qui sont forts au Final Fantasy et qui étaient déjà dès le premier épisode, c'était l'évocation de la mort et donc certains personnages forts, la nudité, l'alcool, et qui n'étaient pas des thèmes très employés à l'époque dans les jeux vidéo. Hein.
C'était très très léger, mais pourtant, c'était Nintendo of America qui voulait faire un truc ultra familial, etc. Ouais. etc. Bon, c'est toujours pareil. Hein.
Mais on y reviendra justement sur certaines décisions de Nintendo of America, et vous allez avoir de sacrées surprises. Par exemple sur un épisode qui s'appellerait FF7, mais vous allez être étonné. Et puis juste pour conclure sur Final Fantasy 1 et pour resituer un petit peu dans le contexte de l'époque qui faisait que vraiment les jeux de rôle japonais étaient quand même en pleine explosion, il faut savoir que ce premier Final Fantasy est sorti quand même seulement 2 jours avant Phantasy Star, une autre grande série qui est aujourd'hui certes moins prestigieuse que les Final Fantasy, mais à l'époque,
oublié,
franchement,
à l'époque c'était aussi énorme. Ouais. Puis il y avait Dragon Quest en face, c'était les trois grosses séries de l'époque. Quoi.
En 1988, soit une seule année plus tard, eh bien la suite arrive toujours sur NES. À l'époque, il fallait beaucoup moins de temps hein, pour voir les jeux défiler, hein, et puis vous allez vous en rendre compte. Plus les époques avancent, plus il faut du temps avant un nouveau FF. C'est l'arrivée de Final Fantasy 2 avec des choses assez intéressantes sur les personnages. C'est la première fois qu'on voyait par exemple le fameux Cid, Chris.
Ouais, on voit Cid pour la première fois, on voit aussi Biggs et Wedge.
Ça c'est un hommage à Star Wars.
Wedge, le fameux pilote.
Biggs et Wedge, c'est les deux personnes qui sont dans l'étoile de la mort, dans l'attaque dans la tranchée et qui,
je vais faire
qui soutiennent
les potes de Luke Skywalker.
Non, mais tu sais, moi, Star Wars.
C'est pas le seul intéressant.
Bah, Sid, c'est super intéressant, oui. Enfin, c'est un personnage justement qui reprennent dans chaque épisode, je crois. Mm-hmm. Il y en a peut-être un où il est pas là, mais je crois qu'il est dans tous. Et souvent il vient aider. C'est lui qui a le vaisseau volant souvent. Mm-hmm. Mais aussi, il peut avoir des rôles différents. Par exemple, dans le 12, si je me souviens bien, tu l'affrontes. Mm-hmm. Tu vois. Et donc voilà, il s'autorise certaines choses, Square, par rapport à ce personnage.
Et parfois il est jouable, parfois il ne l'est pas. Tout il est que fait. Dans le scénario, ouais. Etc. Mais il y a toujours la présence de Sid, effectivement.
Ouais, c'est le premier épisode où il apparaît, et c'est pas le seul truc qui est récurrent dans la série, parce que, et d'ailleurs aussi dans Final Fantasy 2, première apparition du Chocobo, mm-hmm. qui est donc l'espèce d'autruche jaune qu'on chevauche dans le 7, pour ceux qui l'ont fait. Donc,
et alors pourquoi ce mot Chocobo?
Ah, ça je ne sais pas par contre.
Ah bah hey.
Ah, tu vas nous le raconter,
Chris, tu veux, je te laisse.
C'est comme, ouais, enfin je peux le raconter. C'est apparemment c'est tiré d'une friandise japonaise qui s'appelle Chocoball, mm-hmm. Et d'un personnage qui s'appelle Kuro-chan. Et effectivement, si vous allez sur internet, vous mettez Chocobo le Kuro, vous allez voir, effectivement, ça ressemble à un Chocobo, surtout mm-hmm. dans le jeu.
Ils ont les bonbons qui ont une mascotte qui ressemble au Chocobo, c'est ça?
C'était en fait la mascotte de la friandise. Ouais. Ils s'en sont inspirés pour faire le Chocobo.
D'accord.
Ça a une tête très très conne, hein, le Kuro Chat. il faut le voir pour le croire. C'est vraiment le perso ultra pourri, franchement. Mais voilà, il a une tête marrante, etc. Et, ouais. C'est surtout quand on voit le Chocobo de face dans le jeu qu'on voit qu'effectivement il y a une ressemblance.
C'est vraiment un épisode fondateur, hein, finalement, Final Fantasy 2, parce que c'est, on l'a dit, hein, l'arrivée de Sid, l'arrivée des Chocobos, et aussi c'est la première fois dans un Final Fantasy, à la fois c'est le deuxième épisode, hein, mais où les personnages principaux ont un nom. Puisque dans le premier, en fait, c'est le joueur, hein, qui donne un nom à ses personnages directement. Là, ils ont un nom que le joueur peut bien évidemment changer, hein, mais tout de suite, bah, ça donne aussi une identité propre au personnage.
Et puis c'est une orientation qui est presque inhabituelle, finalement, dans le RPG japonais, parce que c'est plus occidental de faire ton propre personnage et de t'identifier à ça, alors que on voit que depuis, dans le game design japonais, on te fait jouer d'autres personnages, quoi. Mm-mm. C'est pas tout à fait la même optique.
Ah non, mais justement, et ça c'est très juste, vraiment, c'est quand même le Final Fantasy 2, c'est le premier jeu de l'histoire du jeu vidéo qui est une suite, mais qui ne reprend absolument aucun élément du titre originel. Mm. Et ce sera d'ailleurs une des marques de fabrique des Final Fantasy, hein, puisque hormis ces clins d'œil, hein, certains personnages, certaines musiques, c'est toujours un univers différent, des personnages différents, un système de jeu différent.
On parlait de Sid qui revient à chaque fois, c'est toujours quand même un personnage complètement différent, dans un contexte complètement différent.
Oui, ils ont bouleversé le gameplay directement, mais je pense qu'en plus, comme ils pensaient pas faire une suite a priori, voilà, ils se sont autorisés des choses. Ils ont fait un système sans points d'expérience. Plus on utilisait une compétence, plus celle-ci évoluait.
C'était énorme comme décision.
Moi, je trouve que c'est une super idée. Bon, apparemment, ça.
Mais il y avait un problème, c'est que tu pouvais abuser le système très facilement. En fait, c'est par exemple pour augmenter les HP de ton personnage, il fallait se faire taper dessus. Donc il était assez simple en fait de maximiser tes HP très rapidement en allant contre des monstres qui te tapaient très peu fort, et puis de prendre plein de coups en fait, parce que c'est pas le nombre de dégâts que tu prends qui augmentait tes HP, mais juste le nombre de coups
que tu prenais.
Et il y avait plein de petits trucs comme ça qui permettaient vraiment d'abuser le système, mais l'idée était bonne au départ. Donc effectivement, un des premiers RPG où il n'y avait pas d'XP, pas de niveau, donc un design complètement différent.
Pour conclure sur FF2, Chris, une dernière petite chose.
C'est dans cet épisode qu'on voit un personnage qui s'appelle Lionheart, qui est un clin d'œil effectivement à FF8.
FF8 fera clin d'œil à ce Final Fantasy 2.
Mais bon, il y en a plein comme ça dans les FF. Donc,
Julo.
Un dernier truc aussi sur Final Fantasy 1 et 2, ils viennent de ressortir en version iPhone. Donc si vous avez un iPhone ou un iPod Touch, ils sont vendus séparément et je crois qu'ils viennent d'augmenter de prix à l'heure où vous écoutez ce podcast, mais bon, et c'est les remakes qui ont été faits à l'époque sur PS1, je crois, donc c'est des graphismes
refaits,
assez revus évidemment, c'est pas les graphismes de l'époque Famicom, et c'est une occasion en fait de découvrir justement ces deux premiers épisodes fondateurs de la série.
Je crois aussi que FF2 était le premier à proposer une carte en 3D, c'est un bien grand mot, mais en fait qu'on pouvait faire pivoter à l'écran, quoi, en fait. Sous forme de globe, il me semble.
Une sorte de globe incroyable. Voilà. Allez, on continue avec le troisième et dernier volet de la NES, la Famicom au Japon, hein, qui est sortie en 90, Final Fantasy 3, et on continue, hein, on est toujours finalement dans les prémices, dans les tout débuts, la genèse de la saga. Du coup, banné de nouvelles apparitions de personnages qui deviendront mythiques. Là, il s'agit des Moogles. Alors les Moogles, qu'est-ce que c'est? Et ils auront une incidence et une importance beaucoup plus forte dans Final Fantasy 9, on en reparlera. Les Moogles, c'est des espèces de, je sais pas, de petits nounours avec une espèce de petite bille au-dessus de la
tête.
C'est
super, Chris. C'est super mignon. Voilà, on peut dire que c'est des petits nounours blancs qui ressemblent à des chats plutôt. Mm-hmm. Dans le jeu, ils protègent le sorcier Doga. Mm-hmm. Donc tu les trouves dans un endroit, il y en a plein. Mmh. Donc voilà, oui, c'est vrai que c'est important de dire à quel moment apparaissent les Moogles, mais c'est pas la seule chose qui apparaît dans cet épisode.
Et pas des moindres, puisqu'il y a deux éléments clés au niveau du gameplay, on reviendra dessus dans quelques instants. Il y a l'arrivée des métiers, avec les chevaliers, les sorciers, les voleurs, les vikings, les érudits et quoi que qu'est-ce. Ouais, on va y revenir dans quelques instants, mais surtout, et pour beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est représentatif des Final Fantasy, ce sont les célèbres invocations. Et bah, c'est dans cet épisode-là que pour la première fois, on les voit débarquer. Et vous allez voir que les noms n'ont pas beaucoup évolué depuis, puisqu'on retrouve Shiva, Ifrit, Léviathan, Bahamut, Odin et compagnie. Ils étaient là, et c'était déjà super impressionnant, même si c'était que, entre guillemets, de la NES.
Ouais, t'avais un gros sprite qui était un peu plus balèze que les autres. Ils n'avaient pas d'importance particulière dans l'histoire, mais effectivement, c'est super bien qu'ils soient... Enfin, les joueurs ont aimé tout de suite, quoi.
Ah bah aujourd'hui, un Final Fantasy sans invocation, je pense que ce serait un scandale, quoi.
C'est clair.
On les attend à chaque fois, on veut voir à quoi ça va ressembler. C'est toujours en plus maintenant la débauche visuelle à chaque fois qu'une invocation arrive. Donc c'est particulièrement impressionnant. On revient rapidement sur le système de métier.
Les jobs, en fait.
Les jobs, ouais.
Bah, en fait, ça s'apparente un petit peu à des classes. Ouais, en Occident, on appelait ça plutôt des classes de personnages. Mais il y avait effectivement déjà un concept de classe de base, donc et puis de classe avancée que tu pouvais débloquer après, plus tard dans le jeu, et qui offrait de nouvelles capacités à tes personnages. Donc la plupart des noms de l'époque ont depuis changé, genre le fighter, donc le combattant ou machin, ou guerrier, a changé par la suite aussi. Je sais plus, le moine était... c'était l'érudit, voilà, qui est devenu le moine plus tard, etc. Mais en gros, les racines de ces jobs, de ce fameux job system qui, à mon sens, mais ça c'est tout à fait personnel, a connu son apogée sur Final Fantasy Tactics, dont on va parler tout à l'heure, était déjà là. Voilà.
Est-ce que...
Non, rien à dire. Enfin, je veux dire, ça, dans le premier, déjà, t'avais le système de jobs, mais effectivement, là, il est beaucoup plus marqué. T'as une vingtaine de jobs différents. Voilà, c'était beaucoup plus riche.
Alors, on change d'époque, on change de génération. On arrive sur la Super Nintendo. Et alors, Final Fantasy IV, c'est un épisode un peu polémique, déjà. La réalisation n'était pas terrible. C'était assez proche de la NES, finalement. On n'avait pas la baffe graphique que beaucoup de joueurs imaginaient avec l'arrivée de la Super Nintendo. En revanche, et ça, Chris, je sais qu'on est très sensible aux musiques de Uematsu, tous les deux.
Tout à fait.
C'est vrai que pour la première fois, ça utilisait la puce sonore de la Super Nintendo. Et là, c'était quand même vraiment autre chose. Et il y a vraiment des thèmes absolument fantastiques dans FF4.
Ouais, ça avait beaucoup plus d'ampleur. C'était des vraies musiques que tu pouvais, entre guillemets, t'écouter en playlist. Mmh. Enfin bon, à l'époque, c'était pas pareil.
Mais ils sortaient déjà les CD, hein.
Oui,
c'est
vrai.
Des musiques,
c'est
les
vrai, OSV. Bah d'ailleurs, je les ai. Hein. Ouais, tout aussi, tu dois les avoir. Ouais. Voilà, je les avais achetés.
Les re-orchestrés, les machins, enfin, tout.
Donc oui, c'est vrai que c'était curieusement, j'ai envie de dire, c'est presque plus marquant l'évolution du son que graphiquement, limite, hein, même, parce que FF4, c'était pas non plus une réussite parfaite par rapport au 6, dont on parlera longuement tout à l'heure, je pense.
Oh oui,
t'inquiète. Donc, voilà.
Il y a un autre truc qui arrive avec le 4, c'est le logo stylisé avec cette fameuse typo qui est reprise maintenant dans tous les logos, et le petit qui fait, enfin, Final Fantasy, c'est toujours la même typo, vous savez, dans chaque logo, et le logo qui est derrière qui est designé par Amano. C'est avec le 4 que ça a adopté ce style de logo.
Bah justement, Yoshitaka Amano, on en reparlera dans quelques instants, hein. Il faut savoir qu'après Final Fantasy Final Fantasy VI, il a laissé la main finalement à Tetsuya Nomura, qui lui était finalement plus adapté au style 3D, mais là il pouvait totalement s'exprimer à l'époque de Final Fantasy IV et vraiment donner un style visuel graphique assez impressionnant. Puisqu'on est sur Final Fantasy IV, il y a une nouvelle apparition, un nouveau style, quelque chose de différent aussi, c'est l'apparition de l'Active Time Battle, la fameuse jauge ATB. Voilà, on en parle deux secondes parce que c'est vraiment fondateur des Final Fantasy, en tout cas à partir de cet épisode-là et pendant très longtemps.
Ouais, en fait, c'est une jauge qui se remplissait et qui permettait d'avoir des combats plus dynamiques. Mmh. Voilà, il fallait faire une action, ça prenait plus ou moins de temps, et puis t'avais les ennemis aussi qui attendaient pas forcément. C'est ça. C'était plus du tour par tour.
Ça rythmait beaucoup plus les combats qui jusqu'à présent étaient quand même. On attendait son tour. Et,
oui,
puis son tour, voilà. Et puis son
c'était
tour.
C'était un truc qui était à mi-chemin en fait, entre du vrai temps réel 100% et le tour par tour d'avant. Quoi. C'était un truc un peu entre les deux qui restait très longtemps. Hein. Mm-hmm. Je crois qu'il y en a même encore dans le 13, non, de l'Active Pain Time Battle.
Tout à fait, mais elle est utilisée un peu différemment là,
ouais.
Par contre.
Elle a pris quand même
complètement différent.
Un sacré coup de jeune. Ça ressemble plus trop.
De dynamisme pour le coup.
C'est ça. Mm-hmm. C'est... Bon. On en reparlera tout à l'heure avec toi, Mimic, hein, justement, parce que FF13 bouscule pas mal de code des Final Fantasy précédents, hein. Et c'est aussi pour ça que quelque part il est aussi un peu polémique, que certains apprécieront particulièrement ou que d'autres détesteront. On passe à Final Fantasy V.
Non, on passe
pas. Qu'est-ce qui se passe?
Il reste juste
un truc.
Il faut parler de la fameuse salle des programmeurs qui était dans FF4. C'était une salle cachée, que dans la version japonaise pour changer.
C'est vrai.
Et dans laquelle on trouvait justement les programmeurs. On pouvait discuter, enfin on discutait pas avec eux. Ils nous disaient certaines choses. Est-ce que vous aimez bien le jeu, etc. Et on pouvait se battre contre quelques-uns, dont un personnage qui avait un point de vie et qui en fait était sensible à tout, aux éclairs, machin, et aux filles à lunettes, je crois. Enfin bon, bref, ils sont fait des délires. En fait, ils se barrent, t'as même pas besoin de te battre contre lui. Et tu trouves aussi, c'est pour ça que Nintendo of America, encore nos amis, a priori, ont viré la salle. Mm-hmm. Tu trouvais un magazine érotique dans le basement. Alors, quand tu dis
c'est sale.
Magazine érotique, c'est-à-dire que tu avais Cécile, enfin le personnage du jeu, qui découvrait un livre, ça devait être marqué, vous trouvez une revue érotique, tu le cherchais dans ton inventaire, et quand tu le lisais, l'écran devenait un petit peu rouge, comme si tu regardais un truc.
C'est sûr que c'est hautement suggestif, ça peut pervertir l'âme de nos.
Subversif même.
Ça, je te dis pas le
chérubin.
Donc voilà, enfin bon, encore la grande intelligence des censeurs.
Fabricants, mais t'inquiète, ils vont s'illustrer dans quelques minutes au cours de ce podcast avec des phrases et des décisions assez impressionnantes. Julo, tu veux réagir?
Si je dis pas de bêtises aussi, parce que j'avoue humblement, j'ai pas joué à FF4, mais c'est aussi l'épisode qui a été reconnu pour il a mis sur le tapis vraiment pas mal de personnages plus que d'habitude, et surtout scénaristiquement il les a creusés beaucoup plus que dans les trois premiers volets, c'est-à-dire il prenait plus d'ampleur, etc. Et idem pour le scénario, en tout cas c'est ce que j'en ai entendu dire, et voilà, c'était personne ne confirme, donc je dois avoir raison.
On jette un poil pudique là-dessus. Et on passe à Final Fantasy V ?
Tout à fait.
Allez, c'est parti. 1992, un an après, toujours sur la Super Nintendo. Là, il y a une petite différence. Hein. Ça marque en tout cas l'arrivée d'une personnalité assez importante au sein de la société. On en parlait il y a quelques instants, hein. Monsieur Tetsuya Nomura. Alors, à cette époque, en 92, il n'est pas encore le Nomura qu'on connaît aujourd'hui, celui qui dessinait les héros du jeu. Il travaillait plus discrètement en tant que designer des monstres. Et il y en a énormément dans les Final Fantasy, forcément. Mais c'est son arrivée. Et puis, petit à petit, on va voir qu'en deux épisodes, il va prendre une importance très importante. Et puis, c'est un Final Fantasy qui a inspiré aussi beaucoup d'OAV, Chris.
Beaucoup d'OAV.
4.
Ouais, voilà.
Pour
donc,
être précis.
Pas énormément. Les légendes du cristal. Enfin,
ouais.
Par Madhouse. Donc, c'est un studio que les gens qui s'intéressent aux animés connaissent.
Mm-hmm. Et c'était sorti en France, d'ailleurs.
Ouais, c'était sorti en France. Je me souviens, j'avais les cassettes VHS.
Exactement, dans un beau coffret.
Voilà.
À l'époque, on parlait encore en franc.
Oui.
Donc je crois que l'action se situe après le jeu. Enfin bon, bref.
C'est 200 ans après Final Fantasy V. Et finalement, c'est la première marque de la part de Squaresoft, hein, à l'époque, d'essayer de sortir le média jeu vidéo et de le faire arriver sur d'autres médias, développer un peu les histoires. Comme bien plus tard, bien évidemment, ils le feront avec le film, hein, et puis avec d'autres éléments, hein, qui gravitent vraiment autour du jeu pour. Bousculer un petit peu l'ordre établi et faire sortir les joueurs de leur chambre ou de leur salon, manette à la main.
C'était soit ça, soit pour faire de l'argent, je crois. Je sais pas.
Ou les deux, hein.
C'est peut-être les deux, ouais.
Qui sait. Mais c'est vrai que Final Fantasy V, c'est pas un épisode qui nous a.
C'est un épisode intéressant pour deux choses principalement. C'est le système de job amélioré dans lequel tu pouvais avoir un job, conserver tes compétences et faire autre chose. Par exemple, tu pouvais être un ninja chevalier et frapper avec à deux mains, voilà, donc c'était intéressant. Et surtout, tu avais la mort d'un personnage que tu utilisais pendant plus de la moitié du jeu.
Tiens donc.
Galuf est un vieux, en fait, donc c'est sûr que c'est moins marquant qu'Aeris. Mais voilà, il se battait contre Exdeath, et voilà, il se relève, et c'est une mort à la japonaise, quoi. Il se bat jusqu'à la mort devant sa petite fille. à qui il lègue ses pouvoirs.
Julo, tu
veux réagir ? Est-ce que j'ai loupé un épisode ou vous m'arrêtez tout de suite ? On a bien dit que c'était à partir de Final Fantasy donc 4 que les jeux étaient sortis aux États-Unis. Et que donc il y avait un décalage dans les petits numéros.
On l'a pas dit encore justement.
Non, on a rien dit en fait.
Effectivement, il y a des.
Quand on est au 5, je me disais. Voilà.
Oui, effectivement.
Final Fantasy 2 aux États-Unis.
Voilà, et que Final Fantasy 6 devient Final Fantasy 3. Et que c'est vrai que même moi à l'époque.
On s'y perdait.
Bah oui, c'était flippant parce que quand t'arrivais dans la boutique et que tu voyais la jaquette et tout, tu voyais marqué FF3, tu faisais. Putain,
c'est
quoi attends, vraiment, c'est sûr ou pas là ? Oh là là, c'est le 6 ou pas ? Les mecs, ils faisaient, ouais, t'inquiète, c'est 700 francs quand même. Ouais, moi, j'avais 12 ans, 700 francs.
Et puis, c'était tellement de gueule à l'époque, les vendeurs des magasins, là, au secours.
Mais effectivement, mais c'est parce que donc le 2, le 3 et le 4 ne sont jamais sortis en Occident avant très récemment par l'intermédiaire de Remake. Donc effectivement, ils sont du coup passés dans les versions occidentales du premier qui lui avait eu le déshonneur d'une sortie internationale au 2 et au 3 qui étaient le 5 et le 6.
Donc voilà. Tu vois, Julo, n'hésite pas à prendre le micro, la parole, parce que tu vois, c'était très pertinent.
Voilà, on avait défriché un peu
oublié ce pan, effectivement.
Non, mais c'est vachement bien, parce qu'effectivement, bah oui. Il y a des lecteurs qui se souviennent encore de Final Fantasy VI
voilà,
comme étant Final Fantasy 3, parce que c'est quand même un volet très important dont on reparle.
Là, maintenant, tout de suite.
Et oui.
On y arrive. 94, la Super Nintendo, Final Fantasy VI.
Ton volet préféré de loin.
Ah, non, mais là, enfin, on est dans le stratosphérique, quoi. Là, c'est même plus le cosmique.
Je suis d'accord.
Là, on tutoie les dieux, quoi.
Voilà, donc sur les gens qui sont autour de cette table, on a fait un petit sondage rapide tout à l'heure. Donc, on a deux préférences pour Final Fantasy VI. Donc, c'est Julien et Chris. On a du FF8 chez Julo, c'est ça ?
Bien sûr.
Moi, personnellement, le 7.
Et
Mimic aussi.
Et le 7 aussi. Donc, on a 2-7, 1-8. Et 2-6, bah on va commencer hein, forcément, chronologiquement parlant. On arrive donc à FF6 94, la Super Nintendo. Bon, voilà, bah c'est bouleversant, hein, du début jusqu'à la fin, dès la scène d'intro, la musique de Nobuo Uematsu, probablement à mes oreilles, peut-être les tiennes, Chris, sa BO la plus incroyable, de ouais, richesse, ouais. De variété, d'émotion.
La plus accomplie, je suis bien d'accord. Des thèmes extraordinaires.
L'opéra.
Des scènes cultes, à plus savoir quoi en faire.
De 20 minutes d'opéra chanté ouais. Avec le processeur de la Super Nintendo à l'époque, et pourtant on y croyait. Quoi.
Ouais, avec des vocalises assez curieuses, mais efficaces. Oui.
Efficaces, avec plus tard l'OSV qui était sorti en Arranged Version. C'était Grand Finale, qui était superbe aussi. Enfin, c'est. Vraiment, c'est Nobuo Uematsu à son top. C'est la Super Nintendo aussi à son top graphique.
Grave.
Parce que, ouais. Parce qu'alors là, quand même, on s'est pris une baffe, mais c'est l'esto cosmique.
Il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que les épisodes sur NES, t'avais les sprites qui faisaient dans les 25 pixels de haut. Sur SNES, c'était pareil. En fait, ce qui a changé, c'est que le nombre de couleurs est passé de 4 à 11 ou 12. Et surtout, les animations étaient beaucoup, beaucoup plus nombreuses. C'est-à-dire que t'avais genre 6 étapes d'animation... sur NES et sur SNES, tu pouvais en avoir une quarantaine pour exprimer le chagrin,
mais
la
voilà.
Peur.
Et ils sautaient sur eux-mêmes. Aujourd'hui, ça a l'air entre guillemets ridicule, c'est sûr, quand on voit les images de synthèse.
Non, mais
ou
c'est
même
une époque
3D,
où l'imagination comptait
ça
beaucoup.
Ça travaillait à mort.
Ouais. Bah ouais.
Ça travaillait à mort. Et ce personnage, ce méchant qui est Kefka, cette espèce de
Joker
de
clown, en fait à la japonaise.
Politicien, machiavélique, sombre. Avec ce rire sardonique qui rappellerait aujourd'hui le rire de Raon.
Il y a un petit côté, ouais.
C'est ça. Et puis moi, je me rappelle de la séquence où il empoisonnait la rive parce qu'il était face à une citadelle assiégée.
Et bah, d'ailleurs, c'est pas dans cette scène que la femme et le fils de Sion meurent.
Je crois que c'est
ça.
Ouais.
Hein
ouais.
Spoiler.
Ah, non, mais vous pouvez pas nous spoiler comme ça, les gars. C'est pas possible.
16 ans plus tard. Non, effectivement. Et puis il y a vraiment des personnages particulièrement forts. Hein. Terra, par exemple, c'est l'une des premières femmes fortes aussi du jeu vidéo. Hein. Et
oui,
bien
bah.
Sûr, avant, il y a eu Samus Aran, Miss Pac-Man. voilà. Mais Terra, c'est l'héroïne du jeu. Quoi.
Oui, et puis surtout, je crois que c'est le premier personnage féminin avec lequel on joue tout de suite dans l'aventure,
ouais.
dans un FF.
Mm-hmm.
En plus, elle est déchirée entre sa condition d'humain et d'espère. Enfin bon, les personnages sont profonds, intéressants. Et on apprend. Et bon, par exemple, tu prends Shadow,
ouais.
Qui est un personnage culte pour plein de gens.
Personnage qu'on n'est pas obligé d'avoir, il y a une sorte de ninja, etc.
Non, mais bon,
et qui
t'as trop envie
génial.
De l'avoir.
Ah bah oui, clairement. Ouais.
Et t'as trop envie de voir tous ces rêves aussi dans le jeu, qui sont voilà. Quand t'avais pas vu les 5 rêves, tu voilà, tu, Enfin, à l'époque, il n'y avait pas Internet comme maintenant pour les trouver, hein, donc c'était plus difficile.
Et puis à l'époque, on n'hésitait pas à faire des contenus que les joueurs ne verraient jamais s'ils s'acharnaient pas dessus. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Hein.
Et puis à l'image de Zelda 3 aussi, il y avait un deuxième monde, puisque. Bon, allez, on spoil là, mais bon, à la fois, voilà.
Oui,
non, à la moitié du jeu, mais vous étiez déjà. Allez, à quoi, 30-35 heures de jeu.
Exact.
Il y a Kefka qui montait en haut d'une méga tour et qui détruisait le monde. Et donc, on avait un monde apocalyptique. C'était un monde Final Fantasy VI dans lequel on avait une quinzaine, douzaine de personnages jouables qu'on devait retrouver au fur et à mesure. Et du coup, à ce moment-là du jeu, l'intégralité du monde est séparée. Donc, tous vos personnages sont séparés aussi. Vous allez devoir les retrouver les uns après les autres. Et moi, je me rappelle, dans la boîte du jeu, on avait une carte. Et une carte avec les deux mondes, avec des petits numéros qui donnaient des noms de villages, etc. Et moi, le nombre d'heures que j'ai passé à relier des points, à me dire « Ah, je suis là, attends, où est-ce qu'il faut que j'aille ?» ça laisse un affect comme, honnêtement, moi, aucun jeu quasiment m'a laissé.
Non, mais moi, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est arrivé à un moment où, personnellement, voilà, je pouvais passer ma vie dessus. Mmh. C'était un des premiers jeux qui avait une narration pareille. Mmh. On découvrait complètement et puis le dernier boss quoi.
Oh
le dernier boss bon,
oh là 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 bah, non, mais parce que beaucoup de personnes ont dit que
raconter la scène de l'opéra aussi, c'est ça la scène culte.
On revient juste d'abord sur le boss, le Final Fantasy VII avec Sephiroth à la fin qu'on affronte tel un archange déchu. Bon, mais c'est FF6 d'abord, c'est-à-dire c'est une tour où finalement à l'image de la porte de Rodin, comment elle s'appelle, la porte des enfers je crois, la statue de Rodin, enfin la porte mythique justement où on voit toutes ces âmes et ces corps qui sont entremêlés, et ben justement c'est exactement ça, c'est plein de corps qui forment des divinités,
ouais.
et donc on les combat en montant dans les cieux.
T'avais trois écrans quoi, ça superposait sur trois écrans,
c'était gigantesque.
Et oui, parce qu'évidemment c'était de la 2D donc
ouais. Et quand on arrivait à la fin d'un combat qui prenait déjà au bas mot une bonne demi-heure, facile, hein. Eh bien, les cieux s'ouvraient comme ça et c'était magnifique, hein, avec les raies de lumière.
Il y avait un côté divin, ouais.
Bah, complètement divin. Et là, il y avait Kefka qui arrivait avec justement une aile et l'autre, je crois qu'il n'y avait qu'une seule aile, hein, à l'image de Sephiroth. Et donc, c'était un petit peu comme Lucifer, finalement, le plus beau des anges, le porteur de lumière, qu'on devait comme ça terrasser. Et là, pour l'anecdote finale, moi je me rappelle, donc moi je l'ai fait en américain, donc Final Fantasy 3.
Moi aussi.
Il fallait donc un adaptateur pour pouvoir y jouer. Moi, le fameux AD29.
AD29,
ouais, ouais. Et c'est Philou de Squaresoft avait trouvé une ruse. C'est que quand on l'utilisait avec l'AD29, le jeu le détectait, vous permettait de jouer à tout le jeu. Sauf que les menus dans les cartes étaient noirs, on ne voyait absolument pas quels étaient les items, les objets qu'on utilisait et qu'on voyait. Donc moi je faisais une grande liste où je notais tout, parce que dans les combats on pouvait les voir. Donc combien j'en ai, à quelle place, et donc après à l'aveugle hop je reprends ça, etc.
Quelle horreur.
Et
le
pire du pire.
Quand
non,
jeune,
pas le pire du pire.
Le pire du pire, c'est la fin.
Ah oui, c'est la fin. Voilà. Cinématique qui dure quoi, 20 minutes, Chris. Enfin, cinématique, on est
en
2D. Hein, mais...
ouais, ouais. 20, 22, enfin, je sais plus, mais. Ouais.
Où on revoit tous les personnages, toute l'histoire, la tour qui est en train de se détruire, ils sont en train de partir, etc. Et sur les 20, 25 minutes de cinématique de fin, à un moment, il y a un personnage qui tombe. Il tombe dans un trou, il y a les deux yeux sur un fond noir qui font plip, plip, genre ça va se rallumer. Ça ne se rallume plus jamais. Il n'y a plus que la musique qui continue et vous avez 10 minutes de fin.
Écran noir.
Écran noir. J'ai donc recommencé le jeu 3 fois en me disant c'est un bug. Je n'ai donc jamais vu la fin et je me rappellerai
avant
toujours.
Avant cette merveilleuse invention qu'on appelait YouTube.
Ah bah non, même pas. D'un pote qui, pour mon anniversaire, donc le 8 février, je sais pas quoi, genre 6 ans, 7 ans plus tard, m'envoie par ICQ à l'époque un fichier. Il me dit t'as un émulateur Super Nintendo ? Ouais. Bah mets la sauvegarde. Et c'était la sauvegarde juste au début de la fin. Il l'avait tout refait, etc. Et il m'avait filé la sauvegarde juste à la fin. Et j'ai pu enfin, grâce à Philippe Barbelaya, que je salue, qui je sais peut-être écoute, que je ne remercierai jamais assez. Ça m'avait beaucoup touché. Pour mon anniversaire, j'ai vu la fin de Final Fantasy VI. Et forcément, ce jeu reste dans les mémoires.
Mais c'est terrible. Voilà.
Et ouais.
Ça me rappelle mon histoire avec Shenmue, quoi. Et tu crois qu'un jour un mec pour mon anniversaire il va m'emmener Shenmue 3, et le mec il aura codé toute sa vie. Ah, ça y est, j'ai fini. Voilà, bon, j'ai casé Shenmue, c'est bon.
Mais tu voulais
c'était pas évident, c'était pas évident. C'était quand même,
bien joué,
selon
bien
la
joué.
Performance.
Mais tu voulais parler de la scène de l'opéra, on le fait très vite, Chris.
Oui, enfin, on l'a évoqué tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qui, enfin, voilà,
bah, il y avait des choix. C'était, on chantait, ça durait très longtemps, c'est une vingtaine de minutes de scène.
Il y avait des paroles à apprendre.
C'est ça. Il fallait trouver, en fait, il fallait répéter pendant les répétitions. Il y avait les paroles, il fallait les retenir. Et quand on était après cantatrice, parce qu'on n'était pas censé être la vraie cantatrice, et bah, justement, là, on arrivait. Puis il y avait des choix qu'il fallait faire très vite avec la musique de bonnes paroles, et il fallait la valider, sinon ça faisait des couacs dans la musique, etc. Enfin,
sous forme de quoi, de genre de quick time event en fait, de l'époque quoi.
Ouais, faut juste deux choix et puis il fallait appuyer vite et puis voilà, c'est tout quoi.
Oui, il n'y avait pas de QTE là.
Mais qu'est-ce que c'était génial, les phases 3D en mode 7, elles étaient magnifiques, le scénario il était...
Pour ceux qui ne le savent pas, rappelons rapidement que le mode 7 de la Super Nintendo, c'était un truc qui permettait de donner des effets visuels de profondeur et de 3D qui pour l'époque était déjà impressionnant, sans polygone quoi.
Enfin, je crois que bon, voilà, vous aurez compris, Final Fantasy VI, si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que ça a vieilli, mais ça garde une magie.
Il y a un remake GBA qui est assez intéressant, qui a une traduction française, donc ça c'est important. Le seul souci, c'est que le rendu sonore est moins bon, et bon, c'est vrai que ça gâche un peu, c'est dommage.
Moins bon que sur Super NES.
C'est pas la même puce sonore. Sur SNES. Faite par Ken Kutaragi, le père des PlayStation, et je peux te dire que là, il avait envoyé du lourd. Sonore déchiré grave. Putain, qu'est-ce que c'était bon. Voilà, FF6, des émotions, des souvenirs, machin, vous l'aurez compris, c'est un jeu important en tout cas pour certains membres de la rédaction de Gameblog. Et on passe d'un coup en 97, un saut de génération. 3 ans plus tard, on délaisse la Super Nintendo pour arriver à la PlayStation, la PS1, et là on arrive à un jeu culte pour donc Mimic et Raon. Pour Julo aussi, mais toi c'est Final Fantasy VIII, on garde la fraîcheur du truc pendant quelques instants. FF7, forcément, c'est la révolution, à plus d'un titre, c'est... Le départ de Square Enix, enfin de Squaresoft à l'époque, des plateformes Nintendo pour arriver chez Sony, à ce moment-là, énorme barnum.
Ça déjà en soi, c'est effectivement une révolution à l'époque.
Et c'est là que je sors ma petite citation de George Harrison, à l'époque président de Nintendo of America. On vous a dit qu'il y avait des petites perles, et ben voilà une première. À l'époque, Nintendo of America dit qu'il ne voulait pas Final Fantasy VII sur console car il trouvait le jeu lent et fastidieux.
Et ils pensaient que ça ne parlerait pas à leur audience de l'époque, joueurs qui avaient l'habitude des consoles Nintendo.
Ah bah ouais, ça c'est ce qu'on appelle une bourde. Hein. À la fois, le jeu aurait probablement été très différent de ce qu'il a été sur PlayStation, puisque Nintendo 64 avait choisi le format cartouche. Oui. Il n'y aurait donc pas eu de cinématique. Le jeu, on avait déjà eu des ébauches du jeu, était clairement moins beau que ce qu'on a vu sur PlayStation. Mimic, tu nous parles de FF7 qui a fait tourner les têtes à tellement de gens.
Bah c'est celui qui fait connaître la série A au monde entier. Donc voilà déjà. Ensuite, c'est la claque graphique qu'on connaît. C'est des surprises incroyables dans le scénario. Enfin, moi, j'ai regardé des souvenirs.
Alors, tu le dis très vite quand tu dis le monde entier, mais c'est le premier Final Fantasy aux États-Unis
qui sort sur les
trois
territoires.
Tout à fait. Chez nous, en France, c'est le premier. Il faut quand même attendre 97. Hein. C'est pas rien.
Et le 7e opus d'une série.
Ouais.
Oui, en plus.
Parce que j'ai dit Dragon Quest, ça fait pire, hein, mais bon.
Mm. Donc voilà, t'avais le fameux système des matérias qui a marqué tout le monde. Tu upgradais comme ça les pouvoirs sur les armes. Moi je garde ça en souvenir.
C'est effectivement
aussi Sephiroth. Enfin, pour moi, il y a des tonnes et des tonnes de trucs. Quoi. Voilà,
il y avait tellement de choses à côté facultatives, des trucs à la con, comme le Golden Saucer, par exemple, ce gigantesque parc d'attractions où il y avait énormément de choses à faire. L'élevage des chocobos. Rien que tu pouvais te taper une date en fait, avec une des filles du jeu. Donc, dans l'épisode en l'occurrence, il y avait Tifa
Aerys.
Aerys et Yuffie. Mmh. Et si tu étais méchant ou mauvais avec la plupart d'entre eux, tu finissais avec Barrett dans un. Je sais plus si c'était la Grande Roue, je crois que c'était
oui,
la Grande Roue.
Ouais. C'est ça.
Et puis les fameux élevages de chocobos, les invocations cachées. Il y avait vraiment vraiment énormément de choses à faire. Et puis dans la version américaine, ils avaient même rajouté 2 boss énormes qui étaient les weapons en fait, les armes. Il y avait Ruby et Saphir, c'est ça, je crois.
Mais déjà, il fallait essayer d'aller récupérer toutes les invoques, et c'était pas forcément évident, quoi. Moi, je me rappelle, il fallait aller les chercher dans des endroits complètement reculés sur la map.
Oui, parce qu'effectivement, donc les fameuses invocations qui étaient là depuis pas mal de temps maintenant étaient d'autant plus impressionnantes d'ailleurs qu'elles étaient en 3D cette fois-ci avec des effets de fou. Et tous les sorts, les capacités, etc., fonctionnaient par le système de matériel, qui étaient des petites boules qu'on mettait dans nos armes. Et qui pouvait monter de niveau. Et il fallait récupérer la boule pour avoir la capacité. Et les boules étaient planquées un peu partout. Il y en avait certaines qui étaient difficiles à obtenir, qu'il fallait voler ou des choses comme ça.
Oui, t'avais cette fonction d'ailleurs, voler, qui apparaissait pour la première fois aussi.
Ouais. Oh, pas la première fois, parce que justement, on a oublié tellement de choses dans FF6. Avec des personnages qui pouvaient faire des combinaisons de coups, etc. Oui. Et donc, certains personnages qui volaient les choses.
T'avais un voleur.
Lock. Pour les fans de Lost.
C'est une capacité en fait que tu récupères si tu veux. Mm. Enfin bon, voilà quoi.
Et puis, quand même, juste pour resituer un petit peu les choses en termes comptables, 2 millions d'exemplaires vendus au Japon en 2 jours, ça va. Il y a beaucoup de jeux qui, aujourd'hui encore, rêveraient de pouvoir réussir ce genre de tour de force. Puis les cinématiques, le scénario, Sephiroth, qui, honnêtement, enfin, je sais pas pour vous, mais si on devait faire un classement des ennemis du jeu vidéo les plus classes,
un des grands méchants cultes du jeu vidéo.
Sephiroth,
oui,
il se place là quand même.
Et on a dit que c'était le volet le plus vendu de la série ou pas?
Eh bien, on ne l'a pas dit.
On l'a dit.
Mais tu peux le dire.
Oui, c'est 9,720 millions d'exemplaires dans le monde. Toutes éditions confondues, parce qu'il a évidemment été édité en plusieurs versions. Et il est suivi, donc en l'occurrence, de Final Fantasy VIII avec 8,150 millions d'exemplaires, dont on va parler dans un instant, avec Julo. Et le troisième, c'est le 10, qui est à 7,950 millions d'exemplaires.
Et puis c'est quand même un épisode qui a connu le plus de dérivés, hein, finalement, puisqu'il y a eu moult épisodes. Alors il y en a eu sur téléphone mobile au Japon uniquement, hein, les Before Crisis FF7. Il y a eu Dirge of Cerberus sur PS2 en 2006. Il y a eu Crisis Core sur PSP en 2007. Il y a eu aussi un OAV hein, de 25 minutes, toujours par Madhouse, hein, dont on parlait tout à l'heure pour FF5, je crois. Si je dis pas de bêtises,
oui
c'est
FF5,
ça, FF5, où là ça s'appelait Last Order.
Et puis le film d'image de synthèse, là,
Advent Children
voilà.
Forcément.
Bon, qui est pas super génial, mais bon, voilà.
Et puis il y a le fameux remake, viendra-t-il pas, on ne sait pas. Hein,
on en parlait la semaine dernière.
Ouais, on en parlait dans le précédent podcast, c'est pas gagné-gagné. Mais effectivement, en tout cas, clairement, c'est un jeu qui a fait découvrir pour énormément d'entre nous, d'entre vous, aussi le RPG japonais, hein, puisque ça a été la porte d'entrée. Et depuis, c'est vrai qu'on a heureusement de plus en plus de RPG qui arrivent à faire le chemin de l'autre côté de la planète, chez nous, et c'est plutôt une bonne chose. Alors attendez, il y a deux personnes qui lèvent les mains, on va commencer par Chris.
Moi c'est très rapide, c'est juste j'aime bien caser ce genre d'informations. C'est juste pour signaler que Sephiroth, en fait, c'est un nom tiré de la Kabbale qui désigne des puissances créatrices divines. Donc voilà, tout le monde ne le sait pas forcément.
Donc voilà, effectivement, je l'ignorais par exemple.
Voilà. fin de la parenthèse.
Mais c'est Sephiroth le mot lui-même ou
c'est le mot en lui-même. Voilà, c'est le mot, ça désigne. Voilà, c'est des l'amour. C'est pour essayer de mieux comprendre Dieu. Enfin, c'est une branche du judaïsme. C'est un peu compliqué, hein, même moi. Voilà.
Ouais.
Je tombais sur l'information, je vous la.
Et forcément, on parle de Sephiroth, on parlait de Nobuo Uematsu qui était là aussi aux baguettes, hein, et qui signait une BO assez folle aussi. Et avec le passage orchestral qu'on trouvait à la toute fin pendant le combat, c'était la première fois dans FF qu'on avait une musique orchestrale dans le jeu, même si tout le reste était avec la puce sonore du jeu. Mais dans le combat final, c'était orchestral avec les voix, les cantiques là, c'est féroce, machin. Enfin, c'est forcément un souvenir grandiose et grandiloquent pour beaucoup de personnes. Et Mimic, tu voulais ajouter un dernier point?
Le premier qui est sorti sur les trois territoires, effectivement, il faut aussi souligner la traduction.
Exact, c'est vrai que
c'était quand même absolument dramatique.
C'est vrai que la version française.
Je l'aurais d'autant plus qu'on peut retrouver le jeu aujourd'hui sur le PSN et qu'on retrouve cette même traduction en fait qui est vraiment dans un état dramatique avec des phrases qui sortent de la des bulles, etc. Et c'était
encore si c'était que des petits bugs graphiques comme ça, mais il y a des contresens, il y a des choses qui sont.
Oui, il y a des contresens, mais enfin. On sent bien que l'idée, si tu veux, de la phrase japonaise d'origine, et on la retrouve dans la phrase à chaque fois, mais c'est effectivement, c'est pas clair du tout. Mais on retrouve l'idée principale à chaque fois.
Il y a des phrases en anglais aussi qui ne sont pas traduites.
c'est ballot.
Bref, c'était vraiment une vraie catastrophe, mais effectivement,
c'était une première.
C'est une première, et puis on l'a déjà dit, mais si vous avez l'occasion d'y rejouer et que vous comprenez bien l'anglais, prenez plutôt la version américaine sur le PSN US. Tout à fait possible, ça fonctionne très bien, et vous aurez une traduction qui est nettement plus.
Et puis au-delà de la traduction, vous aurez le jeu en 60 Hz, ça veut dire sans bande noire, sans jeu écrasé et étassé et lent. Mine de rien, quand même,
ça
avait pas mal de défauts. Hein, mais ils ont appris depuis, hein, on le voit avec FF13, on va en reparler dans quelques minutes, mais c'est la première fois aussi que c'est un jeu qui arrive à FF quasiment simultané, on va dire. Allez, on passe à l'épisode préféré de Julo, 1999, toujours la PlayStation première du nom, Final Fantasy VIII, un jeu polémique. Et pourtant,
enfin, polémique, je sais pas, en tout cas il a divisé.
Il a divisé, et c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, on était tous bouche bée devant les cinématiques. C'était l'âge d'or de Squaresoft à ce niveau-là.
C'est juste n'importe quoi.
Ahurissant.
Et ça commençait surtout avec, pour la première fois dans un Final Fantasy, un thème chanté. Phytos, Lusex, et comment ça s'appelle, Liberty Fatali, voilà. Ouais.
Qui a été repris par une équipe olympique. Américaine, un duo en âge synchronisé.
C'est pas vrai.
Si, qui ont fait leur numéro.
Je veux voir la
là-dessus.
Vidéo YouTube.
C'est en 2004.
En 2004, et elles ont eu la médaille de bronze.
Ah,
le duo
ça.
Alison Bartosik et Anna Koslova.
Magnifique.
Voilà, médaille
bon
de
choix,
bronze
bon choix.
En 2004.
Non, c'est vrai que c'est. Moi, quand je fais mon top des musiques de jeux vidéo qui m'ont marqué, je mets celle-là, hein, clairement.
Ah
et
ouais.
C'était dès l'intro, avec une séquence cinématique, tout simplement ahurissante, comme tu disais. Vraiment, on avait la mâchoire qui en tombait tellement c'était classe. Et changement d'univers un petit peu, alors c'est toujours Nomura qui était là.
Oui, parce que ça on l'a pas dit d'ailleurs sur FF7 il me semble, mais
oui,
c'était le premier FF de Nomura, avec les personnages avec les cheveux, pim, des grosses piques, alors qu'on était dans un style beaucoup plus tourmenté, travaillé, personnage élégant avec des
Amano,
des étoffes.
C'est magnifique. D'ailleurs, Amano, enfin, on peut s'y intéresser. Il y a plein de petits bouquins, des recueils d'illustrations, ouais. des trucs superbes.
Oui, puis il ne fait pas que des illustrations de jeux vidéo. Il a,
il a fait des expos aussi. Et tout ça. Et c'est un illustrateur, mais c'est aussi un artiste reconnu et tout. Quoi.
Mais Amano continue à faire, en tout cas, tous les logos de la série. Les logos, c'est Amano. Les personnages, c'est Nomura.
Et donc Nomura, pour la deuxième fois, voilà, s'est occupé du design des personnages. Le monde changeait un peu. C'était un peu cyberpunk dans FF7, pardon. Hein. C'était un peu plus, bucolique dans le 8.
Européanisé, je trouve.
Européanisé, ouais. En tout cas, le souci principal de Kitase sur cet épisode-là, c'était de faire quelque chose, d'aller un peu plus dans le réalisme. Mm-hmm. Alors, on était passé à la 3D, c'était déjà énorme. Mm-hmm. Mais là, ils voulaient se débarrasser de certains codes.
Il y a eu un gap technique par rapport à ça, justement, cette mouvance-là, parce que le premier, celui d'avant, je veux dire, FF7, était, les petits personnages étaient en SD sur la map et dans plein d'endroits. Et gros shader, ils n'avaient pas de texture à l'époque, c'était des polygones avec juste des couleurs et des ombres. Effectivement,
et dans FF8, c'est le premier Final Fantasy dans lequel on trouve des personnages à proportion humaine sur l'intégralité du jeu. C'est aussi le premier dans lequel on trouve, tu sais, il y a pas cette fusion entre les quatre personnages qui se séparent et qui redeviennent un ensuite
quand tu te balades dans la carte du monde.
Ouais. Là, ils se suivent, etc. Et c'est aussi pour Kitase, et moi c'est ce qui m'intéresse le plus dans cet épisode là c'était important de creuser vraiment les personnages. C'était un Final Fantasy qui devait vraiment se centrer sur les personnages et être vachement plus intimiste, en fait. Et du coup, et c'est assez intéressant, c'est le seul Final Fantasy qui commence par quelque chose d'épique et qui finit par quelque chose d'hyper intimiste, alors que tous les autres Final Fantasy, ça commence par une petite histoire comme ça où tu sens que ça va grandir, et ça grandit, et puis ça devient carrément épique sur la fin, et puis avec un final de ouf. Mmh. Final Fantasy 8, c'est le contraire. Ça finit avec une histoire d'amour. Ça commence très grand avec des personnages qui t'énervent un peu, etc.
Laguna, il m'a bien pris la tête, moi.
Laguna ?
Ah ouais.
Pourtant, c'est vraiment touchant, c'est cool. Sur la fin. Mais enfin, bon. C'est aussi le premier Final Fantasy dans lequel ils décident de te mettre aussi dans la tête des personnages, c'est-à-dire que tu as ce qu'ils disent qui apparaît dans des bulles et les phrases, les choses auxquelles ils pensent, et y compris au moment où ils le disent, qui apparaissent en espèce de petits surtitres comme ça.
Et c'est là où je vais jouer le rôle du polémiste.
Oui,
ils pensent beaucoup de choses et donc on est heureux de le savoir, mais c'est bien qu'il l'exprime aussi, parce que Squall est un autiste pendant la moitié du jeu.
Exactement. Alors il pense.
Et
beaucoup.
Alors le héros autiste, super pour s'identifier, quoi.
Il pense, oui, mais. Tu t'y identifies sur le long terme, et surtout quand tu découvres, parce qu'il y a un twist au milieu du jeu qui t'explique en gros que tous les personnages se connaissent pour une certaine raison, que Squall est comme ça, tu comprends, parce qu'il a été abandonné, y compris par ses amis, qu'il s'est senti abandonné d'abord par ses parents, etc. Et il évolue en même temps qu'il tombe amoureux de cette fille. Et dans le final, c'est elle qui va le chercher, il esquisse dans la dernière séquence du jeu le premier sourire, etc. Et c'est vrai qu'au tout début du jeu, il est énervant, mais je veux dire, c'est fait pour, en fait. Et c'est hyper touchant de voir ce personnage évoluer. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a passionné dans ce Final Fantasy là, c'est le scénario et surtout la profondeur vraiment intéressante des personnages.
Il y a le système de combat aussi qui faisait polémique à l'époque. Il est très particulier sur deux choses, le système de vol et les invocations.
Alors attention, alors le truc principal, et alors évidemment ça a choqué plein de gens à l'époque, c'est qu'il n'y ait pas de MP, donc de points de magie, et que donc du coup les magies soient considérées un peu comme des objets entre guillemets qu'on collectionne voler, et qu'on peut aller jusqu'à 99 en foudre machin, puis tu les dépenses, etc. Sauf qu'au début, ce que tu comprends, c'est que tu ne peux que les voler. Ce qui évolue très très vite aussi dans le système de jeu, qui a été même considéré comme l'un trop compliqué, en fait.
Ah oui, oui.
Ouais. Et c'est vrai qu'il était assez complexe. Tu peux ensuite les fabriquer à base d'objets, tu peux aller te les choper sur des points de magie, etc. Enfin, tu peux finalement les choper sur plein de trucs différents. Mais c'est surtout dans Final Fantasy VIII, ils ont complètement rénové le système des invocations. En fait, les invocations dans tous les Final Fantasy, c'est tu la balances, ça te coûte tant, tu peux la balancer tant de fois, elle arrive, boum, et voilà, c'est fini. Dans Final Fantasy VIII, les invocations sont intimement liées à chacun des personnages. Et elles évoluent, elles gagnent des XP, elles gagnent aussi des points de compréhension avec ton personnage, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir faire évoluer tes propres stats, etc. Et ton personnage va être vraiment lié à ces invocations et tu vas pouvoir vraiment les travailler, chacun des personnages, grâce à ça.
Mais honnêtement, moi j'ai vraiment vraiment senti que dans FF7, justement, les gens avaient retenu les invocations. Pour la plupart des joueurs, c'était la première fois qu'ils les découvraient, ils trouvaient ça incroyable. Et ils ont voulu tellement en faire dans FF8 là-dessus que les invocations étaient tellement longues.
Oui, c'est vrai.
Il y en avait certaines qui prenaient une minute.
C'est vrai.
Et à chaque fois qu'on les lançait, on attend.
Ah, je dis pas qu'il avait pas de défaut.
Et du coup,
ce
jeu était long.
Long, ouais.
Lent. Fastidieux. Et finalement, c'est un peu ce que Jean Harrison disait, mais il avait raison. Un peu trop tôt. Ouais.
Mais
moi
j'ai,
c'est ce qui m'a
j'ai clairement préféré
ralenti, hein.
J'ai préféré les matérias, et franchement je sais pas qui peut dire aujourd'hui en ayant joué FF7 s'il y a vraiment eu un meilleur système que les matérias pour les personnages,
les
espères
dans FF6
peut-être
les jobs de tactics, mais c'est un peu différent.
Mais c'est vrai que le système de combat de FF8 est beaucoup plus intéressant que ce qu'on a pu entendre sur lui, mais c'est surtout le scénario, les personnages et le côté vraiment touchant de cette histoire, moi qui m'a frappé et qui en fait aujourd'hui mon épisode préféré.
Et puisque vous parlez tout à l'heure des Jeux Olympiques qui avaient utilisé la musique de Liberty Fatali, bah, l'OMTV aussi l'a utilisé pour illustrer les buts de Niang et compagnie.
Ah, oui,
et un petit coucou à mon pote de l'OMTV qui utilise les musiques de Final Fantasy 8 pour illustrer les plus beaux buts de l'OM.
Ça va pas vraiment ensemble
qui est en... Tu rigoles quoi? C'est toi qui en parles. Allez, on avance. 2000, PlayStation 1 toujours, dernier volet de monsieur Hironobu Sakaguchi, le père de la série Final Fantasy 9, et aussi à ses yeux son épisode préféré, un véritable retour aux sources justement.
Et là,
après
coup, c'est vrai, hein.
La grandiloquence, le côté très réaliste de FF8, là on a un retour au côté heroic fantasy, au côté mignon, au personnage SD, au thème un peu plus, je sais pas, personnel, proche, il y a moins
c'est
d'ampleur.
Enfin, ça se complexifie un peu plus sur la fin, et il y a certains personnages, il y en a un dont j'ai oublié le nom, celui qui avait les locks rouges là. Mince, enfin bon, bref.
Je ne sais plus.
Mais effectivement.
Et bah, je vois qui vous a marqué.
Bah,
ce personnage là, non, mais.
Mais c'était un personnage un peu plus profond que les autres. Les autres sont assez relativement légers. Le héros de Zidane aussi. Bibi, le petit mage noir qui est mignon, trop mignon comme tout. Et puis, effectivement, tu l'as dit, c'était enfin, Zidane, Heroic Fantasy.
Zidane chez nous, mais Zidane aux États-Unis. au Japon.
Ouais, enfin je sais
ah
pas.
Ah bah si, si.
Qui avait un drôle de manche d'épée.
Exactement. Un peu turgescent.
Voilà.
D'accord.
Non, c'était
moi,
un épisode où il y avait
plein
d'œil.
Je ne montrerai pas ce manche d'épée à mes enfants.
Voilà.
D'accord.
Je suis très étonné, Raon, toi, que tu ne l'aies pas remarqué. Mais
pourquoi?
De ta part, ça me surprend.
Bah pourquoi?
Bah on te montrera les images.
D'accord.
Et donc?
Et donc effectivement, comme tu le disais, un épisode qui est revenu vachement sur la fantasy, qui a restauré aussi un petit peu la magie bleue, qui avait plus ou moins été mis... Elle avait un petit peu disparu et est revenue un petit peu au second plan. Et un FF qui est finalement pas souvent cité ou reconnu, alors que moi je l'avais beaucoup aimé à l'époque.
Ouais. J'ai vraiment apprécié. Ouais.
Chris. Ouais, moi aussi j'avais beaucoup apprécié le jeu à l'époque, je l'avais pas fini malheureusement. Ça arrive souvent avec les FF. Mm. Mais effectivement, ouais, c'était un vrai retour aux sources. Tu avais encore des histoires de cristaux, tu retrouvais des boss de FF1. Je crois qu'il y avait Tiamat, Kraken, enfin les quatre qu'il y avait dans le 1. Il y avait aussi un truc, tiens, on a oublié d'en parler avec l'épisode précédent. Il y avait un jeu de cartes intégré au jeu.
Ah oui,
le,
qui était vachement chouette.
Le triple triade.
T'avais le
Tetramaster dans
le
FF9.
Et le triple triade dans le 8.
Et Julot dit qu'apparemment
ce
c'est
système de cartes est arrivé dans Final Fantasy 8, messieurs.
Oui.
Pour la première fois. Et c'était vraiment super intéressant, effectivement. C'était un vrai petit jeu dans
un,
le jeu.
Un
qui
petit
était
jeu d'astuce. Vraiment bien.
Il fallait collectionner les cartes et tout. C'était super.
Il y avait beaucoup de minigames dans les Final Fantasy à l'époque. Même dans le 7, il y avait beaucoup de choses. Bon, c'était moins complexe que le jeu de cartes en question, mais il y avait beaucoup de petites choses à faire. Quoi. Et j'ai l'impression que c'est une tendance qui s'est effacée par la suite. Mais bon.
Mimic nous le confirmera ou pas tout à l'heure. Et donc, tu disais, Chris?
Sur FF9.
Je disais rien de plus. Si on peut rajouter que le jeu a été développé en partie à Hawaï.
Ouais.
Voilà, c'est toujours intéressant de savoir, de connaître les influences.
Hawaï,
le
là
staff.
Justement, où Sakaguchi était. Hein,
pour faire le film alors.
Pour faire le film Spirit Within, et où il est d'ailleurs toujours en partie hein, pour Miss Walker. Ils utilisaient du coup leur expertise sur les images de synthèse. Il faut savoir que justement, à cette époque, FF9, c'est aussi l'une des premières fois où il y a un studio français qui avait participé aux cinématiques. Et c'est un des FF les plus internationaux finalement, puisqu'il a marié énormément de sociétés sous-traitance pour assembler comme ça le jeu, ce qui lui a permis d'arriver finalement très vite, hein, puisque en 99 FF8, 2000, un an après FF9, ce qui, vous allez voir dans quelques instants, n'est plus vraiment le cas. Voilà, en tout cas, effectivement, FF9, c'est la fin d'une belle époque, c'est la fin aussi des Final Fantasy sur PlayStation 1. On passe donc en 2001 à la PlayStation 2 avec l'arrivée de Final Fantasy X. Et là, Mimic, Final Fantasy X, c'est l'équipe de Final Fantasy XIII. Et c'est très différent.
Oui, on retrouve ces couloirs, c'est surtout ça en fait qui fait le cachet.
Tu voulais dire le charme, mais tu ne le pensais pas.
Oui, enfin,
C'est la fin de la carte.
Ouais,
c'est ça qu'il faut
ça,
dire
ouais,
aussi.
C'est surtout que t'avais
fin de la liberté du joueur.
Un petit marqueur qui t'indiquait où est-ce qu'il fallait aller exactement. Et c'est vrai qu'en termes d'exploration, c'était dramatique. Enfin, moi, j'ai trouvé ça. J'ai eu beaucoup de mal à passer à ça, quoi. Mm-hmm. Voilà.
Mais l'histoire était plus intéressante qu'on peut le croire, en tout cas que beaucoup de personnes ont estimé. Et surtout, le système de combat était extraordinaire, d'un dynamisme fou. Non, Mimic.
Il
ne sait pas exactement. Bah moi je peux te le dire avec les invocations qui pour la première fois venaient avec soi le système de combat qui était présente, qui devenait un personnage à part entière. On avait chose qu'on n'a jamais eu depuis et que moi je trouvais absolument fantastique.
Le même système que de grandir un peu.
Une jauge tu voyais en fait dans quel ordre les combats les combattants allaient agir.
Tu pouvais prendre de l'avance ou du retard, choisir d'économiser un peu, etc. Mm-hmm. C'était super intéressant.
Et du coup c'est la première fois où tu comprenais vraiment quand tu me balançais des invocations ou des magie comme haste qui permettent d'accélérer ton temps.
Ce que tu gagnais,
tu disais si je le fais, je gagne pas tant que ça, donc vaut mieux que je l'économise. Je saute un tour, du coup les mecs ils vont m'attaquer trois fois, mais derrière moi j'enchaîne et ça devenait super stratégique. Moi c'est le FF
parce que
dans lequel j'ai préféré les combats.
T'aurais dû jouer à Grandia du coup parce qu'effectivement c'était un système similaire qui était extraordinaire.
Ouais, j'adore, mais j'ai joué à Grandia. Mec. c'est pourquoi.
Je savais pas, je crois que tu l'avais zappé.
Non, mais c'est vrai que c'est un système à la Grandia, c'était super bien.
C'est un système qui a été mis en place par Toshiro Tsushida qui s'était occupé des front missions auparavant. Donc bon, il avait un petit historique.
Oui, une autre
au niveau stratégie, ouais, c'est clair. Et l'autre truc de FF10 aussi qui était vachement intéressant, on retrouvait un peu le principe des matérias avec des petites boules comme ça sur le sphérier.
Le sphérier qui était bien.
Voilà, et le principe c'était de développer les compétences de son personnage en choisissant un chemin. Mm-hmm. Donc tu pouvais, en disant putain, c'est pas terrible ce truc, mais si je le développe, je vais pouvoir ensuite avoir tel truc, etc. Et donc tu customisais en fait ton personnage en faisant des choix parfois un peu relous, fallait souvent être patient, etc. Et tu pouvais vraiment les faire aller et donc
évoluer
de la manière que tu voulais, quoi. Et ça c'était super sympa.
Et ce qu'on perdait en liberté effectivement, on le regagnait quand même un petit peu en termes de voyage.
Ouais,
c'est vrai que c'était
carrément
beaucoup plus linéaire, mais il y avait une espèce de, je sais pas, enfin toi qui as vécu au Japon, Julo, moi je trouve que ça me rappelle un petit peu les îles Okinawa, etc. Dans les couleurs, dans le, je sais pas, dans l'esprit, je trouvais ça
c'était une inspiration
frais,
mais en même temps
vivifiant.
C'était très Nomura aussi dans le design, etc. Et c'est vrai que ce personnage Tidus, il s'appelait, c'est ça. Il était blond et énervant un peu. Et
parce que ça doit être lié, alors je sais pas.
Skull, il était brun et énervant aussi. Hein.
Non, ouais, mais alors Skull était encore plus ténébreux, mais lui il était un peu plus foufou, il était un peu énervant. Pour moi, je le trouve encore plus énervant de base que Skull. Et après, t'apprends à le connaître aussi, puis sa relation avec Rinoa, elle est super sympa.
Et son père.
Et les artworks, je sais pas si vous vous souvenez, c'est des artworks
magnifiques,
sublimes de Final Fantasy X, vraiment. Enfin, cette scène là où t'étais dans l'eau, justement.
C'était magnifique. Où il l'embrassait.
Avec toutes les petites lucioles et tout. C'est
un peu cucu, mais c'était beau.
C'était cucu, mais par contre, le voyage, en termes d'image, effectivement, c'était un ravissement de tous les instants. Quoi.
Visuellement.
Ah ouais, visuellement, c'était super. Tu voyais vraiment des endroits super différents, etc.
Chris,
et
un petit détail.
Un détail très très important, c'est que c'est la première fois qu'il y avait des doublages dans le jeu. Et bon, ça apporte quand même énormément.
Énormément. Ouais.
Mm-hmm. Et ils étaient pas si mal faits en plus.
Non, à part le héros.
Ouais, bah, qui avait vraiment une voix de jeune.
En anglais, il parlait comme ça.
Et c'est le premier Final Fantasy aussi dans lequel Nobuo Uematsu ne s'est pas occupé intégralement de la BO, et du coup ça donnait une autre teinte, mais c'était plutôt bien réussi. Hein.
Non, c'était bien.
C'était plutôt pas mal.
On retiendra également le mini-jeu de FF10 qui était en fait un vrai sport en fait. Ouais. C'était
le Blitzball,
voilà. C'est-à-dire une espèce de handball sous-marin comme ça. Et c'était vraiment hyper développé, un peu comme
le jeu de cartes.
Il y avait des ligues et tout. Et tu pouvais recruter des joueurs.
Ouais,
voilà, tu faisais ton mercato et tout. Enfin, c'était super sympa.
En fait, c'est pour ça que ça t'a plu.
Le gros défaut de FF10, malheureusement, c'est qu'il était en 50 Hz. C'était le dernier gros titre.
Avant que Square comprenne que nous, Européens, on a aussi le droit à des jeux 60 Hz non tassés. Voilà, effectivement. Allez, on va passer à Final Fantasy XI. Mais juste avant, puisqu'on est dans la période 2001, faut savoir que c'est à cette époque-là où Monsieur Sakaguchi, justement, avant de quitter Square Soft à l'époque, souhaitait vraiment voir des remakes de FF4 à Final Fantasy 6, donc les épisodes 4, 5, 6, sur Game Boy Advance, qui commençait vraiment à cartonner à l'époque. Sauf que Monsieur Yamauchi, le président historique de Nintendo, qui avait toujours très mal vécu le départ des Final Fantasy sur une plateforme Sony, lui a fait « Moi vivant, jamais !» Non, ça n'arrivera jamais. Bon, on a vu ce que ça a donné quelques années plus tard, mais c'est
une
vrai que...
Une fois qu'il est parti, que Motherbrain, puisqu'on l'appelle Motherbrain...
C'est ça, Iwata a été un peu plus flexible à ce niveau-là, et pour les joueurs, tout comme pour Nintendo et Square Soft, finalement, tout est rentré dans l'ordre, et tant mieux. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, clairement, en tout cas, ça a vraiment marqué hein, ce revirement. On pourrait bien évidemment parler de FF10-2, qui est la première fois où il y a une suite... un Final Fantasy, et c'est sorti en 2003 sur PS2.
On pourrait parce que t'as envie de
parce qu'on va aller voilà.
Parce qu'on va le squeezer, mais non, mais c'est le premier dans lequel on joue que des femmes. Que c'est des assez, femmes. Voilà. C'est assez étonnant. Voilà.
Et bah, tout est basé pour le faire
sur
très,
la Star
très,
Academy.
Très courte. Non, sur.
Si, si.
En fait, tous les personnages et leur évolution sont basés sur les fringues. Donc c'est... tu changes de fringues et ça te donne de nouvelles.
C'est
de
un cosplay gigantesque.
Mais complètement nul hein, en termes d'histoire et tout, mais super intéressant au niveau du système. Et je peux te le dire, j'ai fait la Solus. Et vraiment, ouais, merde. Et franchement, il n'était pas si nul en termes purs de système de jeu. Quoi.
Et voilà. Il était découpé en actes, ouais. Chose qu'on retrouve finalement maintenant dans les Final Fantasy de manière un peu plus voilà. Traditionnelle. Donc effectivement, il a apporté quelque
effectivement,
chose.
Effectivement, on va pas dire grand-chose de plus là-dessus.
C'est ça, voilà. C'est... Oh, mais je me rappelle, c'était à chaque fois, il y avait des problèmes, genre c'était la fin du monde, et elles étaient « Oh, c'est la fin du monde !» Il y avait les trois meufs qui arrivaient, genre « On va tous les sauver !»« Oh ouais, c'est cool !» C'était ridicule. C'était horrible, je pouvais plus. Final Fantasy 11, 2002, donc un an avant, PlayStation 2, la première incursion de Final Fantasy dans l'univers du PC. MMORPG, du jeu en ligne. Julo, tu as beaucoup joué, Raon aussi, je crois.
Contre moi, oui, malgré moi.
Ouais, alors vas-y, raconte-nous.
Bah, moi, Mimix sera sûrement pas d'accord. Il a passé beaucoup plus de temps que moi dessus. Donc c'est un MMO, c'est un FF qui est donc très à part. C'est le seul MMO, en tous les cas pour l'instant, en attendant que le 14 sorte. De toute la série, donc il a été produit un petit peu en parallèle sur PC et puis plus tard sur PS2. Il devait en fait, il pensait même pas d'ailleurs le sortir en Occident. Il voulait que ça fasse minimum, je crois, 200 000 inscrits pour envisager de le sortir. Ils ont réussi à faire ces 200 000 inscrits en le sortant aussi sur PS2 au Japon. Mm-hmm. Donc il a été porté et donc c'est un MMO tout ce qu'il y a de plus simple qui est relativement proche du fameux EverQuest pour ceux mm-hmm. qui connaissent, qui est un des MMO fondateurs, qui reprenait le système de job. D'autres FF, tu pouvais avoir oui. plusieurs jobs donc, et monter de niveau par job mm-hmm. et puis ton personnage pouvait porter un job principal et un job secondaire, donc le système était très intéressant, mais le problème c'est que le jeu était très pénalisant, enfin moi je l'ai très mal vécu, c'est-à-dire que si tu tombais sur un groupe qui était mauvais et t'allais dans le donjon avec un groupe qui était mauvais, bah tu ressortais, t'avais perdu 2-3 niveaux.
Et pourquoi tu jouerais avec voilà. des mauvais toi?
Parce que t'avais pas le choix, t'avais parce que choix. Tu voulais jouer et qu'il y avait pas forcément tout le temps des gens
voilà.
Et il y avait un autre truc qui était inadmissible à mon sens pour un MMO, c'est que tu commençais sur un monde aléatoire, sur un serveur aléatoire.
Ouais, donc quand tu t'inscrivais, je sais pas combien,
il fallait payer de l'argent de jeu. Donc déjà commencer à bosser ton personnage, à accumuler de l'argent pour obtenir un objet qui s'appelait le World Pass, je crois.
Ouais, c'est ça. C'était
et bien. Qui te permettait éventuellement de changer de serveur pour aller rejoindre tes copains qui eux étaient tombés sur un autre serveur. Donc c'est quand même
c'est
une aberration.
Non, mais ça ils l'ont corrigé.
Ils ont mis le temps.
Ouais.
Ils ont mis le temps.
J'allais dire assez vite. Bon.
Non, ils ont mis le temps quand même. Enfin,
c'est vrai que
moi, ça a été une expérience relativement mauvaise pour moi, mais
il suffisait de recommencer
bon
ton personnage à chaque fois
oui,
ta première partie jusqu'à temps que tu tombes sur le serveur de ton pote, etc.
C'est vrai, il a raison que c'était quand même super pénible.
Oui, c'est vrai que c'était chiant.
C'était lourd. Quoi.
Non, mais cela dit, pour moi, le plus grand défaut de ce jeu, c'est de pas avoir conservé l'esprit japonais du RPG en termes de système de jeu, etc. De pas avoir apporté quelque chose, de s'inspirer vraiment de ce qui avait été déjà fait. Tu disais dans.
Oui, en termes de combat.
Bah ouais, mais ils auraient dû faire un truc plus japonais. Ils avaient essayé quelque part parce qu'il y avait des cinématiques, il y avait des trucs assez sympas.
Ça c'était pour le côté narratif. Voilà, tu pouvais suivre une histoire quand même dedans.
J'ai envie de te dire, c'est peut-être qu'ils ont essayé avec l'épisode suivant dont on va parler là dans quelques secondes, puisque après 4 extensions, Final Fantasy XI va bientôt être remplacé par Final Fantasy XIV hein, quand il sortira en 2010.
Parce qu'il a encore pas mal de joueurs et puis on connaît tous un déjà qui joue sur 360 là.
Surtout qu'ils viennent d'annoncer 3 nouvelles extensions.
Hein
Greg, ils viennent d'annoncer 3 nouvelles extensions pour FF11.
D'accord, donc effectivement c'est pas un jeu qui est mort du tout.
Non non, il tient bien la route encore. Mais alors justement, Julo, tu le disais à juste titre, tu aurais souhaité quelque chose MMO-like mais un peu plus japonisé.
C'est-à-dire un peu plus scénarisé et voilà.
Eh ben justement, en 2006 sur PlayStation 2 sort Final Fantasy XII.
Ah j'ai adoré.
Avec en charge Yatsumi Matsuno, qui est donc le créateur des Final Fantasy Tactics, du Vagrant Story, et donc il lui a vraiment créé un univers à proprement parler, un monde
Ivalice,
le monde d'Ivalice, dans lequel il immerge Final Fantasy. C'est le jeu dans le Guinness Book des records qui détient le développement le plus long de l'histoire du jeu vidéo,
qui le détenait jusqu'en juin 2008 en
exactement,
tous les cas
exactement à l'époque où un certain Forever là,
Duke Nukem Forever mais lui il est pas sorti, voilà. Donc il peut pas avoir le record.
Mais le jeu quand même,
le jour où il sort lui,
c'est de 2001 à 2006, c'est un développement ultra compliqué, hein. Matsuno n'a d'ailleurs pas fini le développement et ça se sent vraiment sur la fin du jeu.
Mais il a eu des problèmes de santé en fait, je crois.
Non, mais ils ont même recommencé.
C'est ce qu'ils ont dit en tout cas.
C'est ce qu'ils ont dit, ouais.
Ils ont même recommencé à zéro. Ouais.
Il a recommencé plusieurs fois, mais il est très inspiré des MMO effectivement.
Alors justement, pourquoi on dit qu'il se rapproche un petit peu du MMO, etc. Julo, il y a énormément d'innovations et de bouleversements dans cet
épisode. En fait, t'as l'impression de jouer à vraiment un MMO, c'est-à-dire que quand tu sors de la ville, tu te retrouves dans un terrain. Il y a plus de cartes, il y a plus de cartes comme c'était le cas dans les anciens. C'est-à-dire que là, c'est une vraie carte. Tu sors et tu te retrouves avec la même vue, ton personnage, etc. sur cette carte, comme dans un MMO.
Plus de combat aléatoire.
Il y a plus de combat aléatoire. Tu vois les monstres qui apparaissent, donc tu vas les fighter. Et à ce moment-là, quand le combat commence, tu vas avoir toute ton équipe avec toi que tu vas pas diriger. Et en fait, au préalable, tu auras utilisé ce qu'ils appellent des gambits, c'est-à-dire en gros une intelligence artificielle que tu
assignes à tes personnages.
Voilà, tu assignes pour chacun de tes personnages un rôle spécifique. Toi, si je tombe en dessous de 50% de ma jauge de vie, tu me heal. Tu me soignes. Si tu vois que l'ennemi est en train de prendre le dessus, hop, tu m'aides à attaquer, etc. Voilà, c'est le côté vraiment MMO, c'est-à-dire que tu contrôles vraiment que ton perso et les autres sont contrôlés par tes gambits. Et puis voilà quoi. Et dans le look même du jeu, ça ressemble vraiment à un MMO, quoi. C'est-à-dire que tu te balades sur un terrain.
La structure.
La structure du terrain, etc. quoi. Voilà, et puis c'est surtout une histoire, encore une fois, qui est très adulte en fait, et vachement complexe. Et qui,
ça,
moi,
c'est très la team
Ivalice
aussi, ils sont très là-dessus sur les scénars un peu compliqués.
Ouais, c'est
pareil pour Tactics,
c'est politique.
Voilà, avec beaucoup d'intrigues politiques.
Et très Star Wars hein, quand même, globalement, avec beaucoup d'inspiration,
ouais.
George Lucasienne.
Oui, un peu, ouais, c'est vrai.
Chris, tu voulais dire quelque
chose? Oui, non, je voulais juste signaler qu'en fait, les gambits, on n'était pas obligé de les utiliser. Hein. C'est
ce qui m'a éclaté, moi. Dans le
non, jeu. Mais en fait, voilà, mais c'était super complexe quelque part. C'est-à-dire qu'en plus, les gambits, tu les récupérais. C'est-à-dire qu'au début, tu en avais 1, 2, 3, je sais plus. Tu pouvais aller jusqu'à 11. Donc, tu pouvais faire des trucs très, très pointus. Moi, perso, ça m'a un peu fait chier. Alors
et tu faisais comment?
Je faisais plein de pauses. Enfin, voilà, je passais d'un perso à l'autre.
Ah ouais, tu faisais ça, toi?
Ouais, ouais. Non, mais
putain,
attends, j'utilisais les gambits, mais je mettais des trucs de base, quoi. Ouais. Et sinon, parce que sinon, j'avais l'impression que ça faisait pas comme je voulais, ça m'énervait. Ouais. Et c'était aussi, je crois, le premier FF dans lequel la caméra était totalement libre.
Ouais.
Et les transitions avec les combats, c'était direct, puisque tu voyais Et avec les je sais plus comment ils appelaient ça, les lignes
de lumière,
qui montraient si tu te faisais attaquer, si t'attaquais, quel genre.
Et moi,
c'était vraiment bien.
Et ouais, sauf que moi, ça fracassait mon suspension of disbelief, puisque justement, quand t'as un Tyrannosaure.
Vas-y, traduis, si je peux.
Suspension consentie d'incrédulité.
Voilà, ça veut dire que quand t'es dans un RPG traditionnel avec du combat au tour par tour, etc., et que tu vois un monstre qui saute, qui te donne un coup, etc., pourquoi pas, t'es dans le truc un peu fantasmé. Mais quand t'es dans un univers
et
où t'es en train de marcher et que t'as une grande ligne et que t'as un tyrannosaure qui est à 30-40 mètres de toi et qui fait un saut de 40 mètres pour te taper et qui repart de l'autre côté, bah je suis désolé, moi j'y crois pas, ça me casse le délire.
Mais ça, je crois que t'es loin d'être le seul.
Tu t'exagères un peu la performance.
Ah non, parce que la première quête où il faut trouver la tomate rouge de l'enfer, là je sais pas quoi, dans le désert.
Ah oui, il y a un système de quête comme dans les MMO.
J'ai dû y passer, je sais pas, 3 heures, je la trouvais pas, et j'étais à la fin comme un teubé, je suis allé sur GameFAQs chercher cette putain de tomate où elle est. Genre elle est à côté du palmier 4, Area 225 machin. Je l'ai jamais trouvé. Et un jour, je l'ai trouvé complètement par hasard. Alors j'étais passé devant 1000 fois. J'ai presque fini le jeu. J'avoue, je l'ai pas fini. Mais alors, il m'a saoulé, moi, mais d'une force. Et quand on voit que ce jeu, à la base, devait avoir un deuxième joueur, on devait pouvoir jouer à deux.
Ça, c'était
au combat,
une idée qui était déjà au design à la base, mais
voilà,
ils ont abandonné
plein
de trucs.
C'est un projet qui, quand on voit franchement la fin, tu sens tellement le moment où ils ont fait stop, on arrête, on n'ira pas au bout de notre idée, on coupe. Et dans le scénario, la fin, elle est minable. Mais vraiment, la fin est nulle. Non, mais j'ai regardé la fin sur YouTube, il me restait 5 heures de trucs et j'ai lâché le jeu pendant 6 mois, je savais plus où j'en étais, j'en avais rien à foutre.
C'est le problème avec
le jeu. Le jeu m'a pas suffisamment marqué pour ça. J'ai regardé la fin elle est nulle. Elle est nulle, elle est inintéressante. Enfin, pour moi,
c'est dommage parce qu'en termes de scénar, la team Ivalice est vraiment brillante.
Ah, mais grave!
Ils ont vraiment écrit des trucs super. En fait, Tactique, c'est magnifique.
Il est trop complexe, je suis d'accord avec
Si je peux me permettre. En fait, t'as un deuxième jeu dans le jeu qui est la chasse aux monstres, en fait. Avec plein de quêtes. Moi, je me suis fait chier à les faire quasiment toutes. Et si effectivement tu n'accroches pas à ça, tu passes à côté d'une partie du jeu.
Le côté MMO m'a saoulé grave. En fait.
D'ailleurs, il y a un dragon dans le jeu qui s'appelle Yasmat, qui a 50 millions de points de vie. D'ailleurs, ma dernière sauvegarde, c'est à ce perso.
D'accord.
Et je crois que c'est l'ennemi avec le plus de points de vie dans toute la série. Et en fait,
les weapons dans FF7 qui ont été rajoutés dans la version internationale sont pas mal non plus. Hein.
Ouais, elles sont gratinées.
Etc. Genre une heure de combat.
Les chimères purgatrices, ouais. Je sais plus quoi. Non, mais ça, c'est un truc de fou. Je comprends même pas les gens qui arrivent à les battre. Mais apparemment, ouais. Yasmat, ce serait un jeu de mots pour Yasumi Matsuno. Yasmat.
Oui, c'est très japonais, effectivement.
Donc, c'est voilà.
Un petit hommage.
Voilà, un petit hommage. Et le nom de la quête, c'est Au revoir à une légende. Donc, bon, après,
Là, je crois que l'hommage est clair. Effectivement, depuis Matsuno, si je dis pas de bêtises, on l'a un peu perdu sur les radars.
Et dans le genre petite anecdote, Vagrant Story et FF12 ont eu tous les deux 40 sur 40 dans Famitsu.
C'est vrai.
Et c'est arrivé à 13 jeux jusqu'à maintenant depuis 20 ans.
C'était une époque
ans.
Où il n'y avait pas beaucoup de 40 sur 40. Depuis, ouais. Ça a un petit peu explosé.
Ça s'est accéléré.
Depuis
2008, ils en ont.
Nintendogs et compagnie. Hein, bon.
Je ne dis pas le contraire, mais bon, voilà.
Non, c'est clair. C'est effectivement un jeu qui a été très très bien noté. Et je trouve, comme tu le disais, Chris, qu'il partage, même si j'ai beaucoup aimé Vagrant Story, une difficulté. Et des arborescences de trucs dans les combats, etc., tels qu'au bout d'un moment, vraiment, si t'es pas complètement accro au jeu, à l'histoire, au scénar, machin, franchement, tu lâches quoi.
C'est aussi le premier FF qui a eu une préquelle, enfin, c'est pas un mot qui existe, mais FF12 Revenant Wings qui est sorti sur DS avec une histoire qui se passe avant. Et je crois que c'est le premier de toute la série aussi qui a ça. Donc bon, maintenant ça devient peut-être un peu plus commun quand ils font un FF d'annoncer plusieurs volets, soit pour téléphone mobile, soit pour plein de choses. Ouais. Mais voilà.
Enfin, à la fois ils ont du mal à les sortir. Hein. Versus 13, c'est pas encore là. Hein.
Non, tant mieux.
Et d'autres, hein, parce que le Nova Crystallis, Fabula Nova Crystallis, pour l'instant, il a du mal à se concrétiser. Hein.
Ça devient compliqué leur truc.
Et juste une dernière chose sur FF12, je crois que c'est un FF dans lequel toutes les invocations sont inédites. C'est pas mal.
Ouais, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas repris les Ifrit, les chevaliers de la table ronde.
Il y en a 5 que tu croises dans le jeu, plus 8 que tu peux trouver toi-même, et là tu galères pour certaines. Et voilà, elles sont toutes inédites. Bon, voilà.
Rappelez-vous, il y a une certaine époque, au début de la série, il fallait attendre un an pour avoir un nouvel épisode, puis après 2 ans, et bien là, FF12 étant le dernier volet de la saga sur PlayStation 2, il aura fallu attendre plus de 3 ans pour voir arriver sur PlayStation 3, pour la première fois, la série PlayStation 3 et Xbox 360, en tout cas chez nous en Occident, hein, aux États-Unis et en Europe, pas au Japon. Hein. Pour l'anecdote, a priori, Nomura serait absolument contre, et lui vivant, pas de version Xbox 360. Final Fantasy XIII, Mimic, tu as la chance de pouvoir y avoir joué totalement, de l'avoir retourné dans tous les sens. C'est la même équipe que Final Fantasy X, tu avais plutôt apprécié FF10.
Oui, globalement. Oui.
FF13, what about?
Bah écoute, on retrouve on va commencer par les choses qui fâchent. Donc on a ces systèmes de couloirs, on a ces 20 heures d'explications de comment fonctionne le jeu. Et puis le jeu éclate vraiment à partir de ces 20 heures de jeu. Donc c'est là qu'on commence à profiter de tout. Donc c'est très long, effectivement, il y a une mise en place qui est très longue. On trouve aussi dans le scénar, c'est très lent, et si t'as les flashbacks récurrents, etc. Et ça peut être un peu fatigant, mais après ça s'ouvre et tu peux profiter d'un nouveau système de chasse, etc. Que tu as sur Pulse, et voilà. Après tu reviens dans les couloirs, c'est vrai, mais une fois que t'as passé les 20 premières heures de couloir, finalement ça pose plus de problème. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est ça si t'as supporté le début,
t'as rendu l'âme, t'as lâché l'affaire.
Oui, ou alors t'as apprécié d'autres choses comme le système de combat qui est juste exceptionnel, d'un dynamisme que moi je le trouve absolument fabuleux, avec le système
des Optimal Change,
voilà, paradigme shift
en japonais.
Et donc en fait voilà, ce truc là il faut switcher vraiment très rapidement pour changer la configuration de ton équipe et les rôles qu'endosse chacun des personnages pour s'adapter aux situations, et moi je trouve ça juste génial.
Il y a pas mal de gens qui le mettent dans les tout meilleurs systèmes de combat de tous les
FF. Complètement. Et comme de par hasard, c'est le même créateur que les combats de Final Fantasy X. Qui étaient particulièrement eux aussi originaux, inspirés et dynamiques. C'est aussi les invocations qui viennent combattre à tes côtés, une fois de plus.
Alors oui, tout à fait.
Et elles sont liées au personnage aussi.
Ah ouais, voilà, clairement. On en utilise qu'une à chaque fois, mais là où c'est vraiment particulier, justement, pour les invocations qui avaient une telle importance avant et qui a vraiment écrasé complètement les ennemis, là, pour le coup, elles n'ont plus vraiment cette fonction-là. Pour moi, c'est vraiment une fonction de joker, où elles sont là pour réanimer les gens qui sont morts, ou alors pour redonner de la vie à tout le monde. Et voilà, c'est un joker pour relancer un combat, vraiment. Donc là, c'est complètement différent.
D'accord.
C'est vrai qu'avant les invocations c'était un peu des super sorts qui déboîtaient tout.
Tu sortais comme ça pour en finir quoi. Voilà.
Comme le dit très justement Julot, et les gens doivent savoir, c'est un peu comme un coup de fil à un ami.
Tout à fait.
Donc il veut gagner des millions.
Pour te donner ta chance, tout à fait. Non, non, mais c'est pour redonner ta chance en tout cas.
Voilà. Et des millions, Square Enix en a gagné pas mal, puisque même si le jeu a priori fait partie des titres les plus chers de l'histoire du jeu vidéo en termes de coût de développement, il s'est quand même vendu à 1,8 million d'exemplaires au Japon, 1,5 million en 4 jours seulement, qui devrait connaître a priori en tout cas un beau succès en Occident. Pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres, forcément, le jeu vient de sortir, mais c'est vrai que c'est le premier Final Fantasy multiplateforme, c'est à souligner quand même, et c'est vrai qu'a priori il est quand même très attendu. Mais c'est vrai que pour un joueur occidental, il y a quand même beaucoup de poncifs japonais de la manière de raconter une histoire qui commence à devenir un petit peu lourd, c'est un petit peu lent, les personnages qui toutes les deux secondes font qui parlent plus en soupir, en petits cris qu'en phrases, c'est quand même parfois un peu dérangeant au début.
T'as tous les aspects, effectivement, t'as toute une palette de personnages qui sont là pour plaire et donc ils parlent pas forcément à tout le monde, mais
et d'autres
certains,
à toutes des baffes.
Voilà, donc voilà, effectivement, non, mais je pense, Vanny, j'imagine que c'est ça dont tu dois parler.
Ah, Vanny et Hope, franchement, les deux, tu les mets et tu...
Hop, ça m'a parlé encore, moi. Mais bon, c'est un peu plus logique. Mais c'est vrai que ça
se serait viré à une directe, je les tuerais.
Non, mais le but, c'était effectivement de parler à tout le monde. Donc voilà, après, moi, je trouve que ça s'ouvre un peu plus. Après, on passe à autre chose une fois qu'on a bien compris comment fonctionne, quels sont les rôles et ce que représente chacun des personnages, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont des raisons de pas tous s'aimer. Ça, c'est quand même très important dans un FF aussi, parce que c'est assez rare.
C'est vrai que d'habitude, moi, même s'ils se connaissent pas au départ, ils finissent par s'apprécier relativement et puis à se souder face à la menace ennemie.
Voilà, mais là, ils ont quand même des griefs les uns envers les autres et ça crée des scènes assez que j'ai trouvé très percutantes. T'as peut-être pas encore vu.
Non, non.
Mais
j'avoue, je suis une au début
dans laquelle notamment il y a Hope. Alors c'est peut-être un peu cliché pour certains aspects, mais c'est étonnant dans un final, cet aspect-là. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu.
Donc,
c'est
donc
longtemps après, il faut creuser vraiment.
Il faut y aller, il faut continuer, il faut garder l'espoir et machin. Et ça...
Voilà, maintenant c'est pas un jeu qui est exempt de défauts. Le gars qui a l'habitude des FF, il va tomber sur un nouveau produit. C'est complètement différent de ce qu'on a habituellement. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on est complètement perdu. On se dit, mais en fait, on est dans un film interactif avec des grands couloirs et voilà, et un système de combat. Et en fait, bon, après, ça s'ouvre un peu plus. Et puis surtout, après, moi, l'histoire m'a beaucoup plus parlé.
D'accord. Donc, voilà. Mais est-ce que c'est un bon jeu de rôle?
Alors,
après, il y a l'histoire de est-ce un bon FF ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'est un bon jeu de rôle?
C'est un bon jeu de rôle action, oui. D'accord. Tout à fait. Maintenant, c'est sur des rails.
D'accord.
Il faut le savoir, donc il faut l'accepter pour pouvoir en profiter.
Et on revient juste un instant sur la version PlayStation 3 et la version Xbox 360. Il y a des différences?
Alors, effectivement, il y en a maintenant. Voilà, ce que je disais, c'est que le joueur Xbox, il a sa version, il est content, elle est quand même de bonne qualité, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a une différence graphique sur certains aspects du jeu avec la version. Par rapport à la version PS3, c'est vrai, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus clean, je trouve, sur PS3. Donc voilà, maintenant, c'est pas...
Ça se joue au niveau des cheveux, au niveau des arêtes,
c'est
des polygones.
C'est là où c'est plus fragment, et effectivement, les arêtes, c'est vrai.
Et dans les cinématiques aussi, où il y a beaucoup
plus
de grains, forcément.
Oui, bien sûr, c'est un peu plus compressé, donc ça, mais on le savait, c'est moins étonnant. Là où,
mais ça reste un peu emmerdant quand même d'avoir une... Enfin bon, c'est pas la première fois qu'il y a un jeu qui a une version inférieure.
Disons que si on n'a pas la version PS3 devant les yeux, on le note pas non plus.
Inversement, le gars qui a la version PS3 va avoir du mal à jouer la version Xbox, tu vois. Je peux te dire
donc
que oui.
À choisir quand on a les deux consoles, vaut mieux prendre la version PS3 là en l'occurrence.
Oui. Déjà, ne serait-ce que pour pas avoir à changer de disque.
Maintenant, il y a ce confort-là effectivement, parce que tu l'as sur trois DVD sur Xbox
face
et
à un Blu-ray.
Un Blu-ray. Donc ça, effectivement, déjà, mais c'est surtout bon. C'est pas tellement, c'est quand même du pinaillage, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une différence. C'est vrai qu'il y a une différence.
Donc un bon jeu de rôle action.
Tout à fait. Mais pas
un FF.
Pas un bon FF traditionnel. Voilà.
D'accord.
Ce que je dirais.
Et bah, très bien.
Ça m'emmerde qu'il n'y a plus vraiment de carte du monde, en fait. J'aimais bien, moi, cet aspect exploration qu'on a un peu perdu.
De
découvrir
des
petits lieux qui étaient facultatifs. Oui, bon, peut-être des jolis couloirs.
C'est beau.
Mais t'as des jolis couloirs. Et bien voilà, ainsi s'achève cette saga Final Fantasy.
Il faut dire un petit mot sur Tactics, qui est quand même génial.
Ben justement, c'est ce que j'allais dire. Compiler plus de 20 ans de jeux de rôle. Forcément, on a fait quelques omissions, sinon on pourrait continuer encore très longtemps, mais on reviendra dessus forcément sur Gameblog. Il y a bien sûr Final Fantasy Tactics, très cher au cœur.
Qui est mon préféré, en fait, mais comme il n'a pas de chiffres, je ne pouvais pas le dire.
Voilà, il y a eu effectivement des épisodes sur Game Boy, sur DS, il y a eu des épisodes sur PS2 qu'on a furtivement évoqué, les Dirge of Cerberus et compagnie. C'est des épisodes généralement quand même inférieurs, on peut le dire, hormis FF Tactics.
Oui, et puis il y a eu aussi ces remakes ou des compilations aussi qui sont sorties, qui réunissaient plusieurs opus. Les derniers remakes des premiers Final Fantasy sont à voir, bon, c'est un petit peu vieilli pour certaines choses, mais ils ont refait des jolis petits graphismes. Et effectivement, Tactics, qui est disponible donc aujourd'hui dans une version White Lion sur PSP, Et aussi évidemment sur le PSN dans sa version d'origine, et vraiment donc c'est pas un RPG traditionnel comme les autres FF, c'est un RPG tactique comme les Vandalords et autres,
très
avec des cartes sur lesquelles tu tournes, etc. Vraiment tactique, mais le système est incroyable, l'histoire est géniale, c'est la Team Ivalice aussi, et c'est vraiment un excellent FF. Voilà.
Et bien voilà, à vous maintenant dans les forums de nous faire part de vos Final Fantasy préférés, des moments qui vous ont ému, les séquences clés qui pour vous ont marqué vos souvenirs de joueurs. C'est à vous maintenant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Final Fantasy, vu son succès, eh bien la saga, la dernière Fantasy n'est pas prête de s'arrêter, même si... Attention quand même, petit bémol, on a vu que Monsieur Wada, le président de Square Enix actuel, a souligné quand même que des projets de l'envergure d'un FF13 qui demandent plus de 4 ans de travail, des équipes qui peuvent monter jusqu'à 400 personnes et coûtent des dizaines de millions de dollars, et bah c'est pas dit qu'ils en refassent, en tout cas de cette manière précise.
Je crois qu'il a surtout les pieds dans la mélasse avec Versus 13 et que,
exactement, qui ne cesse d'être reporté.
Tu veux
en
dire
cas...
qu'ils vont faire du casual gaming, c'est ça?
Je ne sais pas.
Casual FF. Ah oui, on n'a pas parlé non plus des Crystal Bearers et
exactement.
Autres. Voilà.
Mais probablement que peut-être que la série Final Fantasy va prendre une nouvelle orientation. C'est ce qu'on découvrira dans les mois, dans les années à venir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les FF, en tout cas, ont toujours été en perpétuelle évolution, en renouvellement constant. Donc finalement, c'est dans la tradition des Final Fantasy de se savoir se remettre en cause, en danger, de prendre des risques pour mieux nous surprendre. En tout cas, voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un podcast événement à ne surtout pas manquer, un podcast qui réunira Eric Viennot et David Cage, deux créateurs du jeu vidéo français qui ont tellement de choses à dire sur la narration, sur les histoires dans le jeu vidéo, qu'on espère vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout jouez bien. Ciao,
ciao. Bye bye.